Dans l'émission du midi, on en jase. Il est présentement midi une minute. Sam Reinhardt vient de marquer un avantage numérique pour le Canada. Le Canada qui réduit l'écart de moitié, c'est 2-1 Finlande. Il y avait eu des buts de Mikko Rantanen en avantage numérique en première période. Et Erik Haula en désavantage numérique. Une superbe feinte devant Jordan Binnington en échappé du revers. Mais là, Reinhardt vient de redonner espoir au Canada. C'est 2-1. Il reste 4 minutes 53 à faire à la deuxième période. Mathias, on vit les mêmes... C'est une reprise du match de mercredi, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes émotions à la même heure. On va souhaiter être dans les mêmes émotions aux alentours d'1h20 tantôt.
Oui, ben c'est ça que je m'en allais dire. Le Canada, je pense qu'il veut nous faire vivre pas mal de sueur froide, oui, puis de stress, puis des bons coups cardiaques aussi. Là, on est sous pression. Il reste 4 minutes 30 environ à la deuxième période. On va espérer qu'ils réussissent à égaliser la marque avant la fin de la deuxième. Sinon, ça va être une troisième période stressante en maudit.
Vraiment, la Finlande qui joue très défensif, mais là, qui a la rondelle en zone adverse. Pour nous joindre, 418-971-1021 pour donner votre opinion. Vous savez, on aime toujours vous lire. Êtes-vous rivé au match? Si oui, vous êtes où? Êtes-vous à la maison? Vous dites, hey, j'ai dit à mon boss que je faisais du télétravail, mais finalement, je regarde le match. Bref, dites-nous, vous êtes où? 418-971-1021. On prend des présences avec nous. BLVD.fm, c'est la web radio. C'est aussi la meilleure place pour réécouter les meilleurs moments de l'émission. Notamment, hier, on a eu deux belles entrevues. Une avec Joël Lightbound, lieutenant du Québec et député de Louis Hébert au niveau du Parti libéral du Canada. Également, Gabriel Hardy, député de Montmorency, Charlevoix, du Parti conservateur du Canada. Ça se retrouve sur blvd.fm. BLVD 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store. Partout où vous êtes, si vous êtes sur la route présentement, vous ne pouvez pas regarder le match, on va vous tenir au courant du pointage. Twitch.tv/BLVD/FM. Vous êtes de plus en plus le midi à être avec nous. Merci beaucoup d'être là. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, car il y a plein de bons moments de l'émission qui se retrouvent là, notamment les caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi. Avant de faire le segment Farnell-Morissette-Lambert-Drainville, où on va entre autres revenir sur cette grosse décision de la Cour suprême d'annuler les tarifs de Donald Trump. Mathias, quelles sont les autres nouvelles dans l'actualité?
Bien, je commence avec une autre nouvelle de sport, parce que là, tous nos yeux sont rivés sur la partie du Canada contre la Finlande. On veut que notre équipe canadienne se rende en finale, mais pendant ce temps-là, la Québécoise Valérie Maltais a décroché sa troisième médaille aux Jeux olympiques présentement. C'est une bronze aux 1500 mètres en patinage de longue piste. Donc, félicitations à Valérie Maltais pour sa médaille. Là. Je pense que...
À 35 ans, c'est exceptionnel ce qu'elle fait.
On n'est pas des seuls à avoir manqué le moment où qu'on lui remet sa médaille en direct en raison de la partie, mais ça n'enlève pas moins du mérite pour la Québécoise. Ça a été annoncé aujourd'hui, ministre Simon-Jolin Barrette qui retire de son projet de constitution québécoise une clause controversée. On parle de la clause sur la protection de l'avortement. La raison de ça, c'est, il l'a décrit rapidement, là, c'est qu'il mettait cette clause-là dans le but de défendre le libre choix des femmes. Dans cette optique-là, s'il veut être cohérent, ben, il doit respecter celui-ci et donc retirer cette clause-là parce qu'on le rappelle, là, c'était demandé par les groupes féministes, par les juristes, par les médecins qui s'y opposaient fermement en disant que ça ouvrait une brèche pour les militants pro-vie. En parlant des médecins, les médecins spécialistes qui accentuent la pression pour faire débloquer des négociations avec le gouvernement québécois, on sait que ça traîne depuis maintenant plusieurs mois. Différents moyens de pression sont mis en place, notamment cesser des formations sur un dossier de santé numérique. Maintenant, ils arrêtent également de participer à des activités médico-administratives. Dans un avenir rapproché, on va même cesser d'offrir des rendez-vous par le biais des centres de répartition des demandes de services. On le rappelle, les négociations présentement, les demandes, le gouvernement qui veut augmenter la rémunération des médecins spécialistes de 11%, la demande des médecins qui est présentement à 14,5%. Et je termine avec la grosse nouvelle du jour, même si ça se passe du côté des États-Unis, ça nous affecte directement. C'est la Cour suprême des États-Unis qui a jugé que Donald Trump avait dépassé les pouvoirs prévus par la Constitution et donc invalidé des droits de douane sur la quasi-totalité des produits entrant aux États-Unis. En gros, quand on parle des droits de douane qui sont invalidés par la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui, on parle des droits de douane visés sur des pays en particulier. Donc, ces fameux droits de douane réciproques. Par exemple, au Canada, c'était 35% de tous les produits qui ne sont pas touchés par la CE. Donc, ça, c'est retiré. Par contre, tout ce qui est surproduit dans des secteurs en particulier comme l'acier, l'aluminium ou les automobiles, ça reste en vigueur.
Oui, on va en parler avec la présidente et directrice générale de Manufacturier Exportateur Canada pour la division Québec, Julie White, aux alentours de 12h30. Et c'est exactement avec ceci qu'on amorce la discussion Farnell-Morissel-Lambert-Drainville. Messieurs, comment allez-vous?
Moi, ça va très bien, mais je veux officiellement protester ma position dans le studio. Je suis le seul qui n'est pas capable de voir la télé d'où je suis assis. Alors vous êtes capable de voir le match et pas moi. Mais je suis content d'être ici pareil.
C'est parfait. Reste une minute 20 la deuxième période, donc tu vas être bon pour aller écouter la troisième après la chronique. C'est bon, ça? Lambert Drainville, j'imagine tes yeux rivés sur l'écran de télé en même temps que tu nous parles?
Les boys, malheureusement pour cette chronique, je ne pourrai pas participer. Je vais être là à l'écoute.
Non, mais elle tombe bien, la chronique. Il reste une minute en deuxième. On a juste un petit but du Canada dans la dernière minute.
Mais c'est correct, on sacrifie Farnell. Il peut pas voir.
Vous me le direz.
De toute façon, Farnell, je vais commencer avec toi. Gros jugement de la Cour suprême. Ça avait pris un certain temps, mais on vient renverser la décision de Donald Trump. Je veux parler avec toi. Je sais que tu as lu le résumé, donc un petit peu plus du côté juridique, puis on parlera du côté politique avec Lambert Drainville. Qu'est-ce que tu as vu là, dans cette décision-là?
Ben, parlons vraiment justement du côté juridique. Comme je disais, je n'ai pas lu la décision au complet. Elle a fait plusieurs pages, mais la Cour suprême des États-Unis met un petit résumé qui est officiel, qui vient de la Cour au début. Et essentiellement, ce n'est pas une énorme surprise pour ceux qui suivaient la situation. La décision, c'est que la loi qu'a invoquée le président Trump pour lui donner la capacité de faire des tarifs ne donne pas au président la capacité de faire des tarifs. C'est une loi qui date de 1976, je crois, qui disait essentiellement, puis les termes exacts, c'était que le président a le pouvoir de réglementer l'importation. Alors, le président disait, bien, réglementer l'importation, ça me donne le droit d'imposer des tarifs. C'était assez peu probable que cette interprétation allait tenir parce que les tarifs, c'est une forme de taxe et selon la Constitution des États-Unis, les taxes, le pouvoir appartient au Congrès. Alors, si le Congrès allait voter une loi pour donner au président la capacité d'imposer des taxes, il l'aurait fait explicitement. Il ne l'aurait pas fait en disant réglementer les importations. Alors, en gros, c'est ça. Moi, ce que j'en retire comme leçon en premier, c'est que, bon, bien, les contre-pouvoir aux États-Unis semble bien fonctionner. C'est quand même plusieurs juges qui ont été nommés par l'administration Trump qui se sont rangés contre l'administration Trump.
On disait que Trump avait la majorité à la Cour suprême, mais on vient quand même renverser sa décision.
Alors, c'est une bonne nouvelle là-dessus, comme on disait souvent. Les contre-pouvoirs sont là, mais sont ultimement plus puissants. Mais l'autre chose, je pense, la leçon à tirer là-dessus, c'est qu'il faut faire vraiment attention quand les démocraties donnent des pouvoirs discrétionnaires au pouvoir exécutif, que ce soit le président aux États-Unis ou dans des démocraties parlementaires, un premier ministre, parce que ces pouvoirs-là restent longtemps et on ne sait jamais quelle interprétation un futur chef d'État va pouvoir décider de s'essayer d'en faire pour utiliser pour éventuellement être obligé de passer par un long processus judiciaire pour se faire contrôler. Il reste plusieurs autres lois discrétionnaires qui existent aux États-Unis. Il y a plusieurs autres points d'accroche que le président pourrait utiliser qui ont juste assez de légitimité pour pouvoir essayer de réimposer ces tarifs-là. On verra si l'administration Trump va sauter là-dessus.
Lambert, côté politique, j'aurais le goût de te lancer avec cette phrase-là. Le roi n'est plus roi, il ne pourra plus faire tout ce qu'il entend faire.
Ouais, je n'abonderai pas dans le même sens que toi, mon cher Jeff.
OK, si vas-y donc.
Si on a porté attention aux commentaires de la Maison-Blanche à travers leurs différents membres, les membres de l'administration au courant des dernières semaines, des derniers mois, on sait qu'ils ont l'intention, si la décision qui a été rendue aujourd'hui allait dans le sens où elle est allée, ben qu'ils allaient trouver n'importe quelle autre façon d'imposer ces tarifs-là, puis de trouver d'autres façons d'en arriver au même but. Fait qu'au niveau de la stratégie globale de l'administration Trump, moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Faut quand même dire, par contre, que ces tarifs-là, et au-delà des tarifs eux-mêmes, la possibilité, la menace de Trump de les instaurer immédiatement, sans restriction, pour pratiquement aucune raison, ben, c'était au cœur de sa stratégie politique, de son deuxième mandat. C'était un outil pour lui de contraindre les entreprises étrangères, entre autres, à venir s'installer aux États-Unis, ouvrir l'accès au marché étranger pour les entreprises américaines, mettre de la pression même sur différents pays afin qu'ils, des fois, mettent fin à des conflits internationaux. Fait qu'au final, c'est un outil vraiment pour lui qui lui permettait d'affirmer sa puissance politique à l'échelle mondiale. Et là, ben, c'est un gros morceau de sa politique budgétaire aussi. C'était l'outil principal qu'il utilisait pour compenser les baisses d'impôts qu'il a mis en place, très, très coûteuse baisse d'impôts. Et donc là, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Ben, d'abord, qu'est-ce qui va arriver au niveau des entreprises? T'sais, est-ce que le gouvernement va devoir rembourser ces sommes-là? C'est pas nécessairement... on n'a pas la réponse présentement. Si oui, ce sera de quelle ampleur? T'avais déjà des centaines d'entreprises américaines là, avant même le jugement qui s'étaient préparées à demander le remboursement.
Oui, puis c'est 25 milliards qui ont été perçus en tarifs, si je me trompe pas pour le chiffre, et c'était seulement 250 milliards, c'est ça. Et c'était seulement 200 millions qui provenaient de l'extérieur. Donc, ça veut dire que c'est 249,8 milliards de dollars qui ont été payés par des entreprises américaines.
Écoute, je suis pas certain là, de tout ça, je peux pas te confirmer ça, mais moi ce que j'ai comme chiffre, c'est 250 milliards perçus en droits de douane en 2025, dont environ la moitié était des tarifs basés sur la loi de 77, la loi dont il est question présentement. Fait qu'on parle de la moitié de 250 milliards, c'est quand même des sommes colossales. Et là, bon, c'est une victoire judiciaire, donc point de vue judiciaire, je suis d'accord avec toi, c'est une victoire pour ceux qui jugeaient que l'administration Trump allait beaucoup trop loin. Maintenant, pour les entreprises, en commençant par les entreprises américaines, ben au-delà de la décision, juridique et sa signification morale, disons ça comme ça, ça demeure quand même que c'est des entreprises qui vont devoir s'équiper, vont devoir se prémunir d'équipes d'avocats puis d'aller devant les tribunaux s'ils veulent avoir une contestation. Fait que déjà, c'est pas nécessairement un processus qui est automatique et qui est simple. Et c'est surtout que ça les ramène dans une situation d'incertitude. Puis c'est ça qui est le plus dommageable pour moi dans tout ce qui se passe depuis que Trump est au pouvoir. Mais là, le mauvais côté de cette décision-là ce matin, c'est que ça ramène de l'incertitude pour les entreprises américaines qui s'étaient adaptées aux droits de douane. Puis là, ils ignorent qu'est-ce qui va remplacer ça. Comme je te disais en début d'intervention, l'administration Trump va chercher par tous les moyens d'en arriver au même but. Et donc là, pour ces entreprises-là, c'est de voir qu'est-ce qui va être invoqué comme raison pour la suite, puis comment ça va les impacter. Puis pour les entreprises étrangères comme les entreprises québécoises puis canadiennes, c'est un petit peu la même chose. C'est une victoire morale, mais encore une fois, on ravive l'incertitude pour ces entreprises-là, puis ça vient compliquer encore une fois leur prise de décision au niveau de leurs investissements, l'approvisionnement, et la suite des choses.
J'ai hâte de voir ce que Julie White va nous dire là, comme présidente et directrice générale de manufacturier exportateur. Farnell, est-ce que c'est le temps pour les démocrates de s'organiser enfin? Parce que là, il y a des belles opportunités qui s'ouvrent avec ce jugement-là, avec les mi-mandats qui approchent. Est-ce que tu t'attends à voir des démocrates plus agressifs aux États-Unis face à Donald Trump?
Je pense pas que ça va changer tant que ça, le plan de match des démocrates. Les démocrates commencent à s'organiser depuis longtemps. Ils sont en train de le faire. Mais le coup pour les démocrates va être aux élections de mi-mandat en novembre. C'est sûr que peut-être qu'en privé, ils s'en réjouissent. Peut-être qu'en privé, ils sont contents de voir que la Cour suprême est encore fiable. Mais ça change pas leur calendrier, non.
Ça changera pas leur calendrier. Change de sujet, messieurs, et je m'en vais au Québec avec Simon Jolin-Barrette qui a finalement retiré l'avortement du projet de constitution. Lambert, tous les indicateurs nous amenaient vers là, d'un avec les groupes qui faisaient pression et de deux avec autant les deux candidats à la chefferie, Christine Fréchette et Bernard Drainville, qui étaient à l'encontre justement de mettre l'avortement dans la constitution.
Ouais, alors on en a parlé souvent, Jeff, de la population. Hein? La population, lorsqu'elle se mobilise et lorsqu'elle fait pression sur le gouvernement, c'est avec l'ampleur qu'on a vue pour l'article 29 du projet de loi constitutionnel, ça fait une différence. Là, les gouvernements sont à l'écoute, particulièrement au Québec, quand la pression populaire est si grande que ça. Et c'est la bonne décision, Jeff. Je veux dire, déjà que ce projet de loi-là est tellement contesté, puis on en a parlé avec Farnell, je pense que tout le monde s'entend. Au-delà de « t'es-tu d'accord avec ce que le projet de loi contient ou pas », qu'il y a eu peut-être un manque de consultation en amont pour ce projet de loi-là. Donc déjà, le projet de loi était hyper contesté. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un entêtement à vouloir aller de l'avant avec cet article-là. Je pense qu'il n'y a personne qui doutait du bon vouloir du ministre, qui a encore mentionné dans sa lettre ouverte dans le Journal de Québec ce matin, son inquiétude de voir le Québec reculer au niveau du droit à l'avortement quand il voit ce qui se passe avec les projets de loi conservateurs privés au fédéral quand tu vois des renversements comme Roe versus Wade aux États-Unis. Et donc, personne doutait de son bon vouloir. Alors, du moment que personne doute de ton bon vouloir, mais que tout le monde te dit, ben écoute, c'est peut-être juste une mauvaise bonne idée, je comprenais pas pourquoi il gaspillait autant de capital politique pour un enjeu où, ben honnêtement, on est tous convaincus. Tout le monde s'arrange du même côté, tu sais. Fait que j'étais comme. Dans ma tête, je me disais, tu sais, Jeanlin Barrette, c'est peut-être mieux de garder ses munitions là, pour le reste de son projet de loi. Et c'est visiblement il s'est visiblement lui aussi rendu à l'évidence. Il prend la bonne décision aujourd'hui.
Vous êtes dans le segment discussion Farnell, Morissette, Lambert, Drainville. On prend les différents sujets principaux de l'actualité de la journée. Vous mentionnez que la deuxième période est terminée entre équipe Canada et la Finlande. C'est 2-1 Finlande après deux périodes de jeu. Le Canada qui a le double de tirs au but de la Finlande. La Finlande qui se défend tant bien que mal après avoir pris les devants 2-0. Farnell, le projet de constitution, normalement, c'est un projet où on va être à livre ouvert avec les autres partis politiques. Ça va être des discussions entre les différents partis qui vont amener à ce projet de constitution. Là, François Legault en avait fait un cheval de bataille lorsqu'il est revenu à l'automne et qu'il a tenté le tout pour le tout. Est-ce qu'on l'avance encore, ce projet-là? Parce qu'on est à l'approche des élections. On n'a plus de chef du côté de la CAQ. On va en avoir un nouveau le 12 avril. T'sais, je trouve ça bizarre qu'on continue à travailler là-dessus du côté du gouvernement.
Je l'ai dit souvent, je pense que, puis Lambert là, il a fait allusion aussi, je crois que ce projet de loi-là souffre d'un énorme déficit de légitimité.
Oui, hein?
Le gouvernement a le pouvoir légal de faire ça. Ça, je veux dire, bon, il y a peut-être des théories constitutionnelles comme de quoi ça va à l'encontre de certains principes de droit internationaux. Je laisse ça aux experts là-dedans, j'en suis pas un. Je crois qu'en droit interne québécois, le gouvernement a le pouvoir de faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la légitimité de le faire? Je crois pas. Je pense que, comme Lambert le dit, c'est quelque chose qui a été fait clairement sans une très grande consultation. Avoir consulté son propre gouvernement, le ministre de la Justice aurait pu réaliser qu'il y a à peu près 2 ans et demi, son gouvernement avait proposé un projet de loi très similaire et tous les groupes de droits des femmes, des groupes de droit à l'avortement s'étaient présentés à l'Assemblée nationale pour dire « faites pas ça et voici pourquoi ». Et les revoici 2 ans plus tard à être obligés de faire exactement la même chose pour avoir exactement le même résultat. Il n'y a pas énormément de consultations là-dessus, mais je me demande, j'ai l'impression de voir, malgré que je crois à la bonne foi du ministre de la Justice, là, je pense qu'il agit avec des bonnes intentions, c'est juste qu'il y a peut-être un déficit de consultation. Je crains qu'on fait faire une espèce de paratonnerre en politique. Puis un paratonnerre en politique, c'est quand on va intentionnellement sacrifier un élément d'un projet politique, que ce soit un projet de loi quelconque ou autre chose, qui attire la foudre, qui attire de l'attention négative, dans le but de pouvoir le sacrifier pour sauver le reste du projet. Mmh. Alors là, ma crainte, c'est que Simon Jeanlin Barrette va se présenter au peuple, dire « Regardez, je vous ai écouté, regardez comme je suis raisonnable, j'ai retiré la proposition qui était controversée, nous avons donc eu une consultation, il n'y a pas de problème, maintenant tout est beau, on opère avec le consentement du public, quand il reste encore d'autres gros problèmes à l'intérieur de ce projet de loi-là, il fait reculer les droits autochtones. »
As-tu des exemples?
Ben oui, il fait reculer les droits autochtones, il limite énormément la capacité du peuple québécois d'utiliser son argent collectif pour contester les lois qui vont être passées par une simple majorité à l'Assemblée nationale. Et j'en passe, il y en a plusieurs. Alors, et en plus, c'est un projet de loi, une constitution est supposée être le contrat d'utilisation du pouvoir entre le peuple et son gouvernement. Et le gouvernement est essentiellement en train de changer le deal sans nous. Tout ça, ça reste des problèmes actifs. Alors oui, c'est une bonne nouvelle qu'il y a eu un recul sur des problèmes liés à l'avortement, mais ça ne change pas le déficit de légitimité de l'entièreté du reste du projet de loi. Puis j'espère qu'on ne va pas oublier, parce qu'il y a eu un petit gain là, qu'il reste énormément de travail à faire sur l'autre bord.
Vous rappelez que Valérie Malta a remporté une médaille de bronze au niveau du patinage de longue vitesse. On vient de le voir à la télévision. Superbe réaction. 3e médaille pour elle dans ces Jeux olympiques à 35 ans. Lambert, est-ce que tu es d'accord avec ce que Farnell apporte?
Est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il y a possiblement d'autres améliorations à apporter, particulièrement par rapport aux droits des premiers peuples? Oui. Est-ce que je suis... Dans le fond... Je m'entends sur l'essentiel de ce que Farnell dit, mais c'est sur la finalité, moi, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Le projet de loi, je l'ai lu et je comprends, notamment l'article 29, qu'il y avait des questions qui se posaient. Il y en a encore qui demeurent en suspens. Les consultations ont eu lieu, puis le ministre va réfléchir à tout ça. Puis si ça ne fait pas l'affaire des gens, il y aura l'occasion de continuer à protester puis de mettre de la pression sur le gouvernement. On a vu que ça a eu un résultat probant, comme je viens de le dire, pour l'article 29. Mais moi, à un moment donné, là, tu sais, la question de la Constitution, là, on en a déjà parlé, elle est sur les lèvres de tous les partis politiques qui se sont enchaînés au pouvoir et dans l'opposition au Québec depuis 30 ans. Tu sais, fait que de dire on n'a pas consulté, on n'a pas assez discuté, on n'a pas assez... C'est une réflexion et une discussion et un débat populaire que l'on a depuis des décennies au Québec. Et on n'a jamais eu un gouvernement qui, à un moment donné, a dit « Ben écoutez, là, il n'y en aura pas de constitution où ce que tout le monde dit, hey, moi, je suis d'accord avec 100% de ce qu'il y a là-dedans. Il y a toujours des gens qui vont contester. Et donc, j'ai lu le projet de loi. Et moi, à savoir, est-ce qu'il est parfait? La réponse est non. Est-ce qu'il est perfectible? La réponse est oui. Est-ce que je préfère aller de l'avant puis dire, là, ça fait des décennies qu'on discute de cette affaire-là. On a débattu de ça à de nombreuses reprises avec des partis politiques qui touchent tout le spectre gauche-droite. On peut-tu aller de l'avant? Moi, je suis à l'aise avec 95% de ce qu'il y a dans ce projet de loi-là. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Avoir enfin notre première constitution en tant que nation. Puis si, ben, il y a d'autres gouvernements dans le futur qui veulent apporter des modifications, ben, ils pourront le faire, être élus en conséquence. Mais à un moment donné, là, de dire qu'on n'a pas assez consulté alors que ça fait 30 ans qu'on parle de cette affaire-là, moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est un petit peu avoir une vision à courte portée, là.
Ouais, t'apportes un bon point. Mon seul point, moi, c'est que je trouve que la CAQ n'est pas légitimée de le faire à l'heure actuelle, de la façon...
Le projet de loi qu'ils amènent, Jeff, je veux dire, c'est l'aboutissement, encore une fois, de pas juste la CAQ, là, tu sais.
Ouais,
c'est
mais dans l'an...
d'un débat non, si c'était l'aboutissement de tout ce que les partis politiques disent depuis 30 ans, il y aurait un consensus à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas un.
Non, je ne suis pas certain que c'est pour ça qu'il n'y a pas de consensus. Les partis politiques se prononcent. Tu écouteras les consultations.
On a l'Assemblée nationale, on a la législation provinciale la plus consensuelle au Canada. On est capable d'avoir des consensus. Si c'était vraiment l'aboutissement de 30 ans de travail transpartisan, ça paraîtrait.
Non, moi, je ne suis pas certain. La joute politique, malheureusement, fait en sorte que du moment qu'il va y avoir un enjeu, du moment qu'il va y avoir un pépin, un article de loi avec lequel un des partis ne sera pas d'accord, il va voter contre sur l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, notre système est fait comme ça.
Ben non, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte québécoise, a été adoptée de façon unanime à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, là.
Peut-être, mais ce que je te dis,
ça
moi,
prouve
c'est
qu'on
que...
est capable de le faire, justement.
Oui, ça prouve qu'on est capable de le faire. Est-ce qu'on est obligé d'attendre à chaque fois que ce soit à l'unanimité? Moi, je pense que non. Puis la raison, je veux dire, tu écoutes les consultations, rarement les critiques sont faites sur le contenu du projet de loi. Ce que tu entends depuis le début, c'est sur la forme, beaucoup plus que sur le fond.
Non, il y a beaucoup de critiques sur le fond aussi.
Il y a quelques critiques sur le fond.
J'étais là, j'en ai entendu.
Oui, il y a quelques critiques sur le fond, on en a parlé, puis il y a des éléments perfectibles. Mais sur le core, sur l'essence de ce qu'il y a là-dedans, j'ai pas entendu les partis politiques s'attaquer à l'essentiel, à l'essence, au cœur de ce projet de loi-là par rapport aux valeurs, par rapport à l'élément distinctif québécois. Il y a certains pans, certains détails.
Je pense pas que c'est un détail, là, dire
non,
par exemple
articles,
que le public a le droit
articles.
D'utiliser son argent pour contester des lois votées par 63 personnes à l'Assemblée nationale. Je pense pas que c'est un détail. Je pense que c'est très core aux principes démocratiques dans lesquels on vit.
Ouais, ça, on s'en est déjà parlé. Là. C'est pas nécessairement... tout blanc ou tout noir, là, c'est pas de dire que les gens pourront plus utiliser l'argent public. Là. C'est pas...
Ben oui, c'est ça pas... que ça dit, c'est l'argent public. Je veux dire, c'est ça qui est écrit dans le projet de loi. Je l'ai lu 20 fois, j'ai fait un mémoire là-dessus, je suis allé le présenter, c'est ça qui est écrit.
Vous êtes bons, les gars, quand vous débattez.
Moi, comme je vous dis, je suis à l'aise avec ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est ma position.
Je veux dire, si t'es à l'aise avec ça, si tu crois que le public québécois est à l'aise avec ça, je veux dire qu'on consulte le public québécois réellement, qu'on le mette dans une consultation référendaire pour de vrai, au lieu de le passer avec une simple majorité, malgré l'opposition de tous les partis.
Moi, je pense, quand tu regardes, par exemple, l'exemple du syndicat qui avait contesté la loi 21 devant les tribunaux en utilisant l'argent public alors que la majorité de ses membres sont en faveur, est-ce que tu me demandes si moi je suis d'accord avec le fait que ce syndicat-là ne puisse pas utiliser de l'argent qui a été qui est de l'argent public, mais s'ils souhaitent utiliser de l'argent qui provient d'une autre forme, d'une autre source, ils auront très bien le droit de le faire.
OK, mais c'est ça, c'est un exemple spécifique. Si tu veux qu'on parle des syndicats, c'est même pas dans ce projet de loi-là. Ça, c'est le projet de loi 3. Le projet de loi 1 empêche, par exemple, le Barreau du Québec, empêche le Conseil de la femme, empêche plein d'institutions de la société civile qui sont autonomes, qui sont indépendants, d'utiliser notre argent, là, l'argent du public québécois, pour contester des lois qui sont passées par l'Assemblée nationale par simple majorité. Je veux dire, je ne crois pas que ça, c'est un détail. Je pense que ça, c'est une question qui va au cœur même de c'est quoi la démocratie québécoise.
Et encore une fois, pour ce qui est de cet élément-là, comme je te dis, moi, je n'ai pas d'enjeu à l'améliorer, ce projet de loi-là. Je n'ai pas d'enjeu à ce que Puis, visiblement, le gouvernement est prêt à le faire. Ils l'ont fait avec l'article 29. Voyons voir pour la suite. Moi, je fais juste dire, on peut-tu aller de l'avant? Puis s'il y a un élément dans ce projet de loi-là qui ne fait pas l'affaire, le gouvernement, il y a une élection dans moins de 6 mois, là, qui va pouvoir faire une campagne électorale puis dire comment que lui, il va améliorer cette constitution-là. Mais sur 95%, je le répète encore une fois, pour moi aussi l'avoir lu, pour 95% de ce qu'il y a là-dedans, je suis à l'aise et je suis prêt à m'avancer à dire que l'essentiel des Québécois serait très à l'aise avec ce qu'il y a dans ça. Alors sur le fond, je suis d'accord. Sur la forme, non, je ne suis pas d'accord. Mais et sur le détail, et sur le 5%, sur l'amélioration, ben, que ce soit le gouvernement de la CAQ qui recule sur certains pans ou que ce soit le prochain gouvernement qui vienne apporter sa propre touche. Moi, je suis bien à l'aise à ce qu'on aille de l'avant à un moment donné avec un texte de loi avec lequel je m'entends pour l'essentiel. Et comme je le disais, je pense que les Québécois sont au même endroit.
Ben, je suis d'accord avec toi qu'on a une élection qui s'en vient, mais je pense que si justement on voulait en faire un enjeu électoral, on pourrait. Il n'y a absolument rien qui presse. Et si la CAQ veut en faire un enjeu électoral, je vais leur mettre chapeau bien bas. Ils vont avoir fait la chose correcte à faire.
Non, en effet, moi, c'est un peu là, quand je parlais de légitimité du gouvernement, dans le fait qu'il n'y a plus de chef à l'heure actuelle, qu'on va avoir une première ministre ou un nouveau premier ministre élu le 12 avril. Je trouve que l'espace-temps n'est pas le bon. Le timing, pour dire en bon français, n'est pas le bon pour la CAQ. Farnell, est-ce qu'on se garde le projet de loi C-15 pour notre prochaine discussion?
Oui, ça va encore être d'actualité, puis je vois le temps filer. Là,
exactement, je vois le temps filer, parce qu'en même temps, je trouvais ça intéressant de prendre du temps, parce que là, on vient de parler de la Cour suprême qui dit à Donald Trump, « Hey, t'as pas tous les pouvoirs. » Du côté de la Constitution, il y a beaucoup de pouvoirs qu'on se donne en tant que gouvernement, puis je comprenais qu'avec C-15, le gouvernement fédéral aussi va se donner beaucoup de pouvoirs. Donc, je voyais une belle thématique, mais je voulais qu'on prenne le temps de l'aborder. Donc, on met ça à l'agenda pour vendredi prochain.
Oui, puis moi, je veux beaucoup remercier Lambert. Je sais qu'on a des échanges musclés, mais je veux rappeler tout le monde, on est des amis, on s'aime beaucoup. C'est toujours dans le respect.
J'adore.
Lambert est un homme intelligent que je respecte énormément.
C'est très réciproque. Yes. C'est toujours très agréable, messieurs. Go Canada, go!
Go Canada, go! La troisième période se lance à l'instant même. Dans un instant, Boulevard 102, on va aller parler avec Julie White, présidente d'Exportateurs Manufacturiers Canada, présidente pour la division Québec. On va parler évidemment de ces tarifs qui ont été annulés par la Cour suprême. Et on va également parler avec une mère de famille éplorée, c'est-à-dire Madame Suzy Langlois, qui a vu son garçon Gabriel Robillard pris avec des problématiques de santé mentale qui se dégradaient, perdre la vie dans une poursuite policière après s'être échappé d'une urgence psychiatrique. La coroner a blâmé sévèrement l'urgence psychiatrique. On va parler également avec elle. Mais avant la pause, circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, présentement, il y a un ralentissement qui se crée sur Henri IV en direction nord. C'est entre Wilfrid Hamel et Charest présentement. C'était en raison d'un accident qui a eu lieu, mais tout est réglé pour le moment. Charest en direction est, présentement, c'est entre Robert Bourassa et Henri IV. Et Laurentien, direction sud, ça commence déjà à être pas mal compliqué. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, l'émission d'En Jase. On souhaite que dans un instant, après cette courte pause, on vous revienne avec un score de 2-2 entre le Canada et la Finlande.
On en jase jusqu'à 14h.
Vous êtes à l'antenne de l'émission On en jase, votre émission du midi sur Boulevard 101. Il est présentement midi 36. On a franchi les 5 premières minutes de la troisième période et malheureusement, c'est toujours 2-1 pour la Finlande. À la météo, c'est moins 5 présentement, c'est ensoleillé. Ce sera moins 5 pour samedi ensoleillé et moins 1 pour dimanche également ensoleillé. Donc, du très beau temps. On a une très belle semaine et on va avoir un très beau week-end d'hiver. On en a parlé avec Farnell Morisset et Lambert Drainville, également Mathias Turcotte dans les nouvelles, vous l'a fait en entrée de jeu. La Cour suprême des États-Unis qui annule les tarifs de Donald Trump. Et pour bien comprendre les impacts ici au Québec et au Canada, on a le plaisir de s'entretenir avec la présidente directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Mme Julie White. Mme White, merci beaucoup d'être présente à l'émission aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir d'être là.
Quel impact ça peut avoir sur nos entreprises dès maintenant, cette annulation de la Cour suprême?
Ah, puis c'est une excellente question, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on démêle aujourd'hui parce que c'est complexe, là, la question tarifaire. La Cour suprême a annulé les tarifs qu'on dit réciproques. C'est une très petite partie aussi des tarifs qui sont imposés sur les produits canadiens. Les tarifs qui font vraiment mal le plus, l'acier, l'aluminium, le bois notamment, sont des tarifs sectoriels. Mmh. Et ces tarifs sectoriels-là sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas été reniés par la Cour suprême. Ça ne visait pas ces articles-là. Donc, oui, il y a un peu de gens qui vont avoir qui vont voir des tarifs disparaître, mais c'est très, très minime comme proportion. Malgré tout, c'est une bonne nouvelle. On voit que la Cour suprême est capable de dire au président américain, tu peux pas agir seul, tu peux pas faire ce que tu veux dans toutes les circonstances, mais ça règle pas l'entièreté du problème tarifaire.
Puis, c'est quel milieu en particulier que ça va le plus affecter positivement parlant?
C'est sûr que dans le secteur manufacturier, ça dépend beaucoup parce que c'est assez complexe, mais l'accord de libre-échange protège les exportations s'ils ont leur certificat d'origine. La majorité des produits ont leur certificat d'origine, donc ils sont protégés des tarifs réciproques. Il y a une petite partie, je pense on parle de peut-être maximum 10% qui seraient potentiellement allégé en ce moment, mais sinon la question des tarifs de l'acier, d'aluminium, le bois, qui sont ceux qui font le plus mal, qui sont jusqu'à 50%, mais les autres sont encore maintenus. Donc c'est là que c'est une bonne nouvelle, mais il faut être conscient que ça règle vraiment pas la situation. Il faut continuer à discuter avec Washington, puis il faut trouver une solution pour que nos entreprises, par exemple en transformation métallique, nos entreprises qui transforment du bois pour faire des meubles ou des édifices, ben qu'eux autres puissent avoir aussi ce soulagement-là de tarifaire.
Est-ce que ça peut être une bonne nouvelle dans le sens que ça va forcer justement Donald Trump à s'ouvrir davantage aux négociations, notamment dans la renégociation là, de l'entente Canada-États-Unis-Mexique, l'assume?
On espère que c'est ça que ça va donner. Hein. Je pense que c'est, normalement, une décision de la Cour suprême comme ça, dans un pays démocratique, ça fait qu'on réévalue nos façons de faire. Maintenant, on ne sait pas ce que Donald Trump va faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de prévoir comment il va se comporter. Il est très imprévisible. Il a déjà réagi en disant que c'était une honte, la décision. On espère simplement que ça ne va pas l'inciter à aller plus loin puis à imposer encore plus de tarifs sectoriels, hein, parce qu'il pourrait décider d'aller par une autre voie. Mais je pense que les discussions en cours avec le Canada, entre les États-Unis et le Canada se poursuivent. Ça l'avance de ce qu'on nous dit. Donc, on espère que ça va permettre d'amener un peu de calme puis que la discussion va se transposer à la table de discussion sur la renégociation de l'accord plutôt que par les actions à court terme du président américain.
Pour rappel, on parle avec Julie White, présidente directrice générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec. Dominique Leblanc est présentement au Mexique pour négocier des nouvelles ententes commerciales. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher du Mexique au Canada?
C'est une bonne question parce que des fois on se dit bon le Mexique c'est loin, qu'est-ce que ça nous donne par exemple d'avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. La réalité c'est que l'Amérique du Nord, là, on dit souvent en anglais Fortress North America, là, on est très très intégré dans les chaînes d'approvisionnement. On a avec les États-Unis mais aussi avec le Mexique. On a des entreprises québécoises, canadiennes, qui sont implantées au Mexique ou qui font des parties de leur production-là. Donc, de renforcer et de maintenir nos liens avec le Mexique, pour nous, c'est vraiment majeur. Parce que si on perd, on ne sait pas ce qui va arriver dans la renégociation de l'accord de libre-échange, mais on a besoin de garder ce marché-là nord-américain ouvert. On a des choses complémentaires et c'est comme ça qu'on réussit à avoir des filières très forte industrielle. Donc, c'est une excellente nouvelle que M. Leblanc soit au Mexique. Ça vient rappeler que c'est important de travailler, oui, avec les États-Unis, mais aussi avec le Mexique. Et ça peut renforcer aussi la position de nos deux pays face aux États-Unis quand on va être en mode de renégociation de la CEUM.
Quand on regarde les tarifs de Donald Trump, ça a forcé tout le Canada en entier à travailler sur la diversification des marchés. Un an plus tard, comment ça va en ce sens-là? Est-ce qu'on a réussi à ouvrir des nouveaux marchés ou on est encore au stade de discussion?
Diversifier, aller dans un nouveau marché, ça prend 3 à 5 ans. OK, en moyenne. Donc, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui faisaient déjà affaire dans d'autres marchés, qui ont accéléré leurs exportations vers un point, etc. Ça fait que, oui, il y a du mouvement. Il y a beaucoup d'entreprises que ça leur a forcé à faire leur plan d'affaires, de faire leur diagnostic, puis de commencer ces démarches-là. Je pense que tout le monde est engagé vers ça, dans la mesure où c'est possible en fonction des produits qui sont faits. Mais c'est sûr que c'est pas une solution à court terme à la guerre commerciale. Il faut le voir sur une solution de moyen à long terme. Mais oui, il y a beaucoup d'intérêt. Les entreprises regardent, font des missions commerciales, posent beaucoup de questions, essayent de trouver les meilleurs marchés, les meilleurs partenaires dans les différents pays. Ça fait que oui, il y a beaucoup d'intérêt, mais ça se fait pas en claquant des doigts, malheureusement.
Maintenant que ces tarifs-là sont tombés, il reste ces tarifs sur les produits ciblés, là, acier, aluminium, bois, on s'entend, c'est ça la priorité au Québec. Est-ce que vous avez espoir qu'on réussisse à trouver des ententes dans ces secteurs-là au cours des prochains mois?
J'ai pas le choix d'avoir de l'espoir, je vais vous le dire comme ça. Nos entreprises manufacturières, c'est nous qui sommes directement touchés, puis il faut qu'on travaille en ce sens-là. Je pense que la situation actuelle n'est pas soutenable pour les Américains. On commence à en parler de plus en plus aux États-Unis, l'augmentation des coûts des produits, les impacts sur les entreprises. On n'a pas vu une grande migration manufacturière vers les États-Unis comme M. Trump avait promis. Donc, il commence à avoir un peu de la grogne là, du côté américain. Ça prend qu'ils ressentent les impacts de cette politique-là, même des élus républicains qui commencent à être beaucoup plus frileux. La Cour suprême, d'ailleurs, en passant, là, c'est une Cour suprême qui a été presque entièrement revue par Donald Trump, là. Donc, commence à avoir des difficultés pour M. Trump à soutenir ces politiques tarifaires-là. Donc, on espère que le temps va faire les choses de la bonne façon et que quand on va arriver cet été pour la révision, mais qu'on soit capable d'arriver à cette entente-là. Le gouvernement fédéral est très actif, puis c'est pas facile là, comme négociation, c'est comme un gros jeu d'échecs où on sait jamais d'où le prochain jeu va venir, mais c'est clair que il va falloir trouver une solution parce que 50% de tarifs sur des produits d'acier et d'aluminium ou le bois qui est à 45%, ça ne fait aucun sens, ni pour nous, ni pour les Américains.
Avant de terminer l'entrevue, Mme White, je veux juste vous mentionner que le Canada vient de créer l'égalité 2-2 contre la Finlande. Un but de Theodore.
C'est la meilleure nouvelle de la journée.
Oui, exactement. On va souhaiter un troisième but puis être en finale dimanche contre les méchants Américains. Pour terminer, Julie White, est-ce que vous avez des demandes additionnelles à faire au gouvernement? Vous avez les ondes justement pour le faire au gouvernement canadien ou au gouvernement provincial pour justement vous aider dans toute cette transition-là?
Oui, ben, ce qui est important pour les gouvernements, puis j'étais avec le ministre des Finances à Québec ce matin, c'est juste d'être agile dans l'aide qu'on a aux entreprises. Il y a de l'argent qui est sur la table, il y a des choses qui sont là, mais on a des entreprises qui ont besoin de plus d'aide ou d'aide sous des formes un peu différentes que juste des prêts. Puis l'objectif, c'est pas de dire faut qu'on subventionne toutes nos entreprises à travers cette période difficile-là. Mais dans certains secteurs, sous-secteurs, on a des entreprises stratégiques avec qui vont alimenter les besoins, notamment des grandes filières comme la défense, les infrastructures. Puis il faut les soutenir à travers cette période-là. Faut être ciblé dans ces actions-là. Faut cibler les bons sous-secteurs, ceux qui sont réellement affectés par les tarifs. Mais on est conscient que c'est un équilibre assez difficile à avoir pour les gouvernements actuellement, mais on a beaucoup d'écoute.
Julie White, merci beaucoup pour le temps passé à l'émission On en jase ce midi. Au plaisir de se reparler rapidement quand la situation va évoluer.
Merci.
Et go Canada, go!
Oui.
Merci, au revoir. C'était Julie White, présidente directrice générale de Manufacturier Exportateur du Québec. Je le rappelle, on parlait de cette annulation des tarifs par la Cour suprême des États-Unis, les tarifs imposés par Donald Trump.
On en jase jusqu'à 14 heures. On en jase.
Il est midi 46 minutes, je vous le rappelle. Shea Theodore vient de marquer pour le Canada. Des assistances à Travis Sinheim, notamment. On a marqué Cal Makar, mais je crois pas que Makar était sur la patinoire. Je pense pas qu'on avait trois défenseurs. C'est Sam Bennett, l'autre joueur qui a l'assistance, le numéro 9.
Hey, on peut respirer un peu mieux.
Un peu mieux.
Il reste 8 minutes 42. On n'a pas gagné ce match-là. Non. C'est 2-2. Mais mon Dieu, que ça fait du bien. Là.
Vraiment. En attendant l'entrevue avec Mme Suzy Langlois, une maman endeuillée de son fils Gabriel Robillard, qui a vécu justement une situation très problématique avec l'urgence psychiatrique, c'est la coroner Maître Julie Kim Godin qui l'a rapporté dans son rapport. Mathias, fais-nous le résumé de l'actualité.
Oui, bien, ça a été annoncé ce matin, là, le plus grand laboratoire d'innovation industrielle qui ouvre ses portes. On parle du plus grand laboratoire au fédéral, là, nommé Luquia. En gros, c'est une fusion entre l'Institut national d'optique et le Centre de recherche informatique de Montréal. C'est le 1er avril prochain que ce nouveau centre ouvrira ses portes avec un soutien financier fédéral de 52 millions. L'objectif de ça, c'est de développer et industrialiser localement des technologies critiques, notamment en matière d'intelligence artificielle. On parle des déboires de la SAAC. On parle des déboires des sites Internet de la SAAC. Une histoire qui est sortie dans le Journal de Québec. Un automobiliste qui se déplace sans savoir qu'ils ne sont pas conformes. Puis ça, il y en a plusieurs à travers le Québec présentement, selon ce que nous rapporte le Journal de Québec. En gros, l'histoire, c'est un automobiliste qui a été arrêté par la police puis qui s'est fait dire « Hey, les plaques de ton pick-up présentement sont non payées durant un déménagement. » L'homme en question a comme répondu à la police en disant « C'est parce que mes renouvellements de plaques se font automatiquement avec la SAAC. » Donc, c'est pas normal qu'il soit pas payé.
C'est censé être payé, mais t'es la SAAC, est-ce qu'il faut vraiment faire confiance au système informatique là-bas?
L'homme a contacté la SAAC qui a dit qui a avoué qu'effectivement c'était un problème chez certains des utilisateurs puis que ça se pourrait qu'il y ait eu une erreur. Mais que par contre, ces plaques sont pas payées depuis plus d'un an. Ce qui veut dire que son automobile doit avoir une inspection, qu'il y a des pénalités de paiement également. Tout ça pour plus de 600$. Donc l'homme en question a vécu une erreur.
Aïe, aïe, aïe.
Et doit payer 600$ pour l'erreur qu'il n'a pas commise, lui, mais que la SAAC a commise. Je termine avec un député de Québec solidaire qui fait encore parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons.
Ouais.
Là, c'est Haroun Bouazi, le député de la circonscription de Maurice Richard. Son nom vous dit peut-être rien. Par contre, si je vous rappelle qu'il avait fait une déclaration en affirmant que le racisme systémique était présent à l'Assemblée nationale en 2024, peut-être que ça vous dit un peu plus de quoi. Eh bien, celui-là a encore fait parler de lui pour des propos par rapport à l'Assemblée nationale qu'il a qualifié d'espace toxique où mentir, manipuler, intimider des fait partie du quotidien. Puis ça n'a pas très bien passé là, ce matin. Ruben Gazal a d'ailleurs commenté en disant qu'il a simplement exprimé avec franchise son ressenti. Elle a également dit que Haroun Bouazi a été la cible de menaces graves venant de citoyens. Donc c'est comme ça que la co-porte-parole de Québec solidaire a tenté de le défendre en disant aussi qu'il ne visait ni l'Assemblée nationale comme institution, ni ses membres, mais plutôt le climat. Mais on va s'entendre, en visant le climat de l'Assemblée nationale, indirectement, même plutôt directement, tu vises les membres de l'Assemblée nationale.
Et Haroun Bouazi ne se représente pas aux prochaines élections, donc il aurait pu tout simplement se taire et ne pas faire mal paraître Québec solidaire, qui ont grandement besoin de crédibilité et qui le perdent à coup de sortie de leur député Bouazi. On s'en va à l'instant même rejoindre Suzy Langlois, une maman endeuillée de son fils Gabriel Robillard. C'est un événement qui s'est produit en février 2025. Madame Langlois, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui.
Merci.
Madame Langlois.
Contente d'être ici.
Ah, bien, parfait. Ben, merci. Puis, honnêtement, comme je vous l'ai écrit ce matin, on vous envoie énormément de courage, de positivisme et toutes nos sympathies, évidemment, et nos pensées sont avec vous. Madame Langlois, je vous laisserai en premier temps raconter l'événement, justement, qui a mené, malheureusement, au décès de votre fils.
Bien, en fait, Gabriel, mon fils souffrait de maladie mentale. Et puis, on avait fait à plusieurs reprises des demandes. Quand je dis des demandes, c'est qu'on s'est tourné dans les hôpitaux afin qu'il soit évalué, puis qu'il y ait un traitement, un diagnostic. Et puis, tout ça s'est enchaîné, que ça a toujours passé. La crise a toujours été gérée au moment même au triage. Puis par le... On retournait à la maison, mais en 2025, Gabriel a été chanceux, a été hospitalisé. Enfin, après plusieurs tentatives, il y a un urgentologue qui a dit « Écoute, on va rester à l'hôpital. » Et puis Gabriel a été hospitalisé. Et puis par la suite, on a rencontré un psychiatre. Et puis le psychiatre a donné des permissions de sortie sortie pour aller fumer à l'extérieur et mon fils a pris fuite. Et puis poursuite policière a eu lieu et puis Gabriel en est décédé là, des suites d'un impact d'un accident.
Exactement. Et là, si j'ai bien compris, dans l'article du Soleil qui était publié aujourd'hui, votre fils vous avait appelé au préalable, mais vous n'aviez pas voulu répondre au téléphone parce que, puis et c'est tout à fait légitime, là, vous êtes une mère qui aurait sûrement dit « OK, c'est beau, je m'en viens te chercher » et vous aviez conscience qu'il avait besoin de soins spécialisés.
Absolument. Ce qui arrive, c'est que on avait un plan de match. Moi et le papa de Gabriel, on avait un plan de match de plus intervenir parce que la sortie, en fait, quand quelqu'un souffre de problèmes mentaux, il va toujours c'est très facile, dont les parents. Alors, il y a beaucoup de manipulations, on flanche tout le temps, OK, c'est beau, on a géré la crise actuelle, mais ça revient toujours, cette crise-là. Et puis, en tant que parent, on a une faiblesse, on les aime beaucoup, nos enfants. Alors, on n'affronte jamais la réalité. Mais là, j'avais le plan de match avec des amis à Gabriel. Je répondais pas. Il pouvait plus se sauver, en fait, de la réalité. Il avait besoin de soins. Alors, ces amis-là ont été portés à l'hôpital. L'urgentologue a admis Gabriel en soins. Et puis, Gabriel a tenté de me rejoindre. Alors, j'ai vu l'appel, le message texte. J'ai pas répondu. Enfin, il était pris en charge. Merveilleux. Enfin, on va avoir un diagnostic. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. J'aurais dû avoir répondu, ramener mon fils à la maison, finalement, je pense.
Oui, bien, vous autres, vous avez pris en compte que l'urgence psychiatrique allait garder votre enfant au sein d'urgence, là.
Mais oui. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est un établissement qui est fait pour nous soigner les gens, la population, et puis on s'assure qu'il est en bonne main, on s'assure qu'il y a quelqu'un qui consent à garder le patient. Alors, on retourne peut-être tranquille à la maison en disant il est en bonne main, enfin, il va être évalué, on va pouvoir poser un vrai diagnostic et puis il va être médicamenté. Ça n'a pas été le cas, en fait, là.
Maintenant, la coroner, maître Julie Kim Godin, blâme l'urgence psychiatrique dans son rapport. Qu'est-ce qu'elle mentionne exactement comme manquement?
Ben, en fait, il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs volets. Moi, je vous dirais que c'est public. Je vous dirais que je vous invite à prendre la lecture.
Parfait.
Mais oui, elle blâme l'unité psychiatrie. Pourquoi? Parce que dans la situation de mon fils, le psychiatre a voulu appliquer une méthode de confiance en donnant permission de sortie pour aller fumer à l'extérieur, sachant très bien que le patient était en psychose avancée. Alors, c'était pas la méthode à appliquer. Comme démontre ou que le médecin ou l'hôpital nous démontre l'inverse, là. Mais clairement, on a le résultat. Le résultat, c'est qu'il en est décédé. Ça n'était pas applicable, surtout pas que le psychiatre mentionne... pardon, pas le psychiatre, mais les infirmiers avant mentionnent très bien que l'usager, à la première sortie pour fumer, il collabore moins à vouloir rentrer dans l'établissement. Alors, on a déjà un drapeau, là.
Ouais,
qui est mentionné,
là, au psychiatre, majeur, là.
Mais on continue à donner la sortie. Le droit d'aller fumer à l'extérieur. C'est clair. Puis jamais qu'on m'a contacté pour me demander qu'est-ce qui se passe avec votre fils. Gabriel avait écrit, il avait fait plusieurs dessins qui ne tenaient pas la route, pas du tout. Là, on est rendu loin, là. On est rendu avec des extraterrestres. Et on voit qu'il est
Il se sentait poursuivi, hein, si je me souviens bien.
Oui. Alors, tout ça fait en sorte que ça n'a pas été pris en considération. L'usager, le patient, pardon, avait le droit quand même d'aller sortir à l'extérieur, même si tout était... Il n'y avait aucune... Il n'y a rien qui tenait la route, en fait, là. Mm-hmm. Alors, on se base sur quoi, là, pour... les proches, on est là pour quoi, en fait? On est pour profiter. Ben là, voyons, on s'assure qu'il est en bonne main, là. Ils nous disent, là. On ne le laissera pas sortir, ouais, tout ça. Est beau, finalement.
Puis vous vivez ce drame-là. Est-ce que l'hôpital ou les médecins, les psychiatres se sont excusés auprès de vous et le père de l'enfant?
Non, pas du tout.
Ça manque complètement de sensibilité.
Bien, écoutez, ils m'ont seulement qu'ils se sont pas excusés, mais ça a pris 6 mois. Moi, j'ai dû faire une plainte à l'hôpital, en fait, là, pour réussir à retrouver des effets personnels qu'il avait perdus. Ça a pris 6 mois.
Oh my God! Okay?
Ça a pris 6 mois, simplement, soi-disant, on n'avait pas vos coordonnées, c'était perdu, mm-hmm. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai rencontré la directrice de l'hôpital de Sorel, qui m'a mentionné qu'il reconnaissait ne pas avoir fait la divulgation, qui reconnaissait que jamais j'avais été consultée ou appelée, seulement avisée. Ils reconnaissent, mais il n'y a pas d'excuse. Les médecins, ils pratiquent dans un autre hôpital. Ça, moi, je sais où ce qui est. Il n'y a rien qui s'est passé, là. Comprenez-vous?
Non, je comprends très bien. Il n'y a rien qui a changé, puis il n'y a rien qu'on a fait pour vous. C'est un manque complètement de sensibilité et de bienveillance.
Écoutez, la directrice m'a quand même mentionné qu'elle avait corrigé certaines choses, là, parce que, naturellement, que les sorties, ils peuvent être accompagnés d'un proche, là, pour aller fumer à l'extérieur. Ils ont essayé de resserrer un petit peu les taux. Mais on va bien s'entendre sur une chose que si moi, je vais rendre visite à mon fils qui est dans une psychose avancée puis qui veut aller fumer, s'il veut se pousser, il veut partir, il va le faire même si je suis sa mère.
Ouais,
alors,
c'est ça.
C'est vraiment pas la méthode, là.
Ben non, pas du tout.
On doit les garder à l'intérieur. Mais là, le droit de la personne embarque là-dedans. Le droit de la personne a fait que ça a tué mon fils. C'est
ouais, vous en pensez quoi du droit de la personne? Parce que me semble qu'on a le devoir de protéger les gens contre eux-mêmes dans une situation comme votre fils.
Bien, écoutez, moi, je vais vous dire que en bonne citoyenne, je vois un accident qui va arriver ou peu importe là une situation, je vais me devoir d'intervenir.
Exactement.
Dans le cas de mon fils, l'intervention clairement a été échappée.
Clairement.
Du début aller à la fin. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est de changer beaucoup de choses, puis les choses à changer, c'est au moment où le patient est entrepris.
Oui. C'est d'ailleurs pour ça que vous faites justement les sorties dans les médias aujourd'hui, parce que vous voulez mettre de la pression sur le système pour que ça change. Et c'est pour ça qu'on vous donne le micro, parce que ça fait aucun sens que vous ayez perdu votre fils dans ces conditions-là. Mais
c'est malheureux. La réalité fait que je ne suis pas la première mère à vivre cette situation. Puis probablement, je ne serai pas la dernière, parce que notre réalité est ça. Mais clairement que ça ne peut plus rester comme ça. Le droit de la personne, là, je le comprends, mais il y a des lois à corriger, parce que clairement, c'est pas fait en fonction. Là. Mon fils aurait dû rester dans l'établissement avec ses soins. Les droits de fumage, là, pour un patient qui est en psychose avancée, ça ne devrait pas être permis.
Ah non, ça ne fait pas de sens. Ah, ça fait vraiment, vraiment pas de sens. Madame Suzy Langlois, je vous le répète, on est avec vous dans votre combat. On vous envoie énormément d'énergie et d'ondes positives. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis sachez qu'on va faire le maximum pour que votre voix se fasse entendre partout.
Mais moi, je vous remercie. Puis j'invite tous les parents qui vivent des situations à communiquer avec moi. J'ai aucun problème avec ça, au contraire. Clairement, moi, j'ai un combat à les mener, puis je vais aller le mener. Je vais tout faire.
Excellent. Puis ça va nous faire plaisir de vous redonner les ondes dans quelques semaines à cet effet-là.
Merci.
Merci, Mme Langlois.
Bonne
journée. Passez une belle fin de journée. C'est Suzy Langlois qui a vécu un drame inhumain. Son garçon de 25 ans, Gabriel Robillard, aux prises avec des événements de psychose, était placé à l'urgence psychiatrique de l'hôpital Sorel. Il y a un psychiatre qui l'a laissé sortir et aller fumer parce qu'il voulait créer le lien de confiance alors qu'il était en pleine psychose. Résultat, le jeune est décédé à la suite d'une poursuite policière lorsqu'il s'est sauvé de l'urgence psychiatrique. C'est très désolant comme deuil, et c'est un deuil qui aurait dû être évité.
C'est un deuil qui pourrait être évité, puis c'est des deuils qui doivent être évités de plus en plus dans le futur. J'ai envie de te dire, c'est pas la première mort qu'on voit en raison de négligence ou non. En raison d'une erreur par rapport à quelqu'un justement qui a des troubles de santé mentale ou encore de psychose. Puis ces personnes-là, en plus d'avoir de la difficulté à avoir des services, parce qu'on en parle, puis ça devient de plus en plus réel, ces personnes-là ne sont plus capables de recevoir des services qui leur conviennent. Lorsqu'ils réussissent à accéder à ces services-là, bien, ils ne sont pas bien encadrés.
Exactement. Donc, franchement, on va reparler à Mme Langlois d'ici quelques semaines pour voir où son combat se mène, parce qu'il faut justement livrer ces batailles-là là, pour ces parents-là qui perdent l'être cher et dont l'hôpital ne prend même pas soin d'eux, n'est même pas bienveillante avec eux. C'est vraiment notre système est malade à l'heure actuelle. On va aller faire une pause. Par la suite, on va parler avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Ryan Whiting, là, le fameux athlète olympique aux Jeux de Salt Lake City 2022 en snow, qui par la suite est devenu le El Chapo du Canada. Il a utilisé un système pour partir à la traque, un système informatique pour partir à la traque de ses opposants. Ça faisait en sorte que, avec ce système-là, l'opposant avait juste à ouvrir un message sur son téléphone cellulaire et il savait exactement la personne était où. Je veux qu'on parle de ça avec Steve Waterhouse parce que je veux en connaître plus sur le système, mais surtout, je veux savoir, est-ce qu'on est protégé, nous, au Canada, de ça? Bon. Puis surtout, est-ce que nos policiers sont assez bons pour pogner les gens qui utilisent ce système-là? C'est ce qu'on va parler après la pause. Vous mentionnez qu'il reste 1 minute 12 au match entre le Canada et la Finlande. Le Canada est en avantage numérique. On tire de partout, mais Yussi Saros n'arrête pas de bloquer rondelle.
Faut que ça rentre. Il reste 30 secondes l'avantage numérique, c'est maintenant que ça se passe.
Exactement. Donc, après la pause, peut-être qu'on va revenir avec le but du Canada. C'est à souhaiter. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase.
Deal. Faites vite, l'offre se termine le 1er mars. Visitez iris.ca pour tous les détails. Iris, vision d'exception, style remarquable. Dr Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Les aliments Ludo, une variété de pizza en format 9 et 12 pouces, comme celle du resto. Mais aussi la vraie sauce à la viande du bas du fleuve et d'irrésistibles pâtés cuisinés comme à la maison. Disponible dans les supermarchés participants. Pizza Ludo, décongeler, cuire, servir.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Pour une relâche magique en famille, plongez dans l'univers fantastique de Beefly. Découvrez des papillons aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec notre mini-golf fluo 3D et osez traverser notre labyrinthe de miroirs où illusion et réalité se confondent. Une sortie inoubliable aux Galeries de la Capitale. Faites vite, Beefly fermera ses portes le 16 mars 2026. Réservez maintenant au beefly.ca, BFLY.ca.
Boulevard 101. T'aimes l'actualité, t'aimes le rock. T'as jamais téléchargé l'application Boulevard sur ton téléphone? T'es qui, toi? Gratuit sur Google Play et App Store.
Au Collège O'Sullivan, on a une place pour toi. Découvre le DEC en production 3D et synthèse d'images offert par des enseignants expérimentés issus de l'industrie. Dans un environnement bilingue en plein centre-ville avec un accès 24 heures sur 24, tu auras tous les outils pour réussir. Tu travailleras sur des projets concrets avec de vrais clients comme le Tournoi international National Pee-wee de Québec. Communique avec nous dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes au Collège O'Sullivan.
Envie d'un nouveau défi? Cometal recrute un estimateur en ventilation. Vous n'avez jamais fait d'estimation? Aucun souci. Ce sont vos connaissances en ventilation qui nous intéressent. Le reste, on vous l'apprend. Salaire concurrentiel et avantages dès l'embauche.
Envoyez votre candidature à RH en commercial cometal.ca.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush, en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Playojo.
Chérie, oublie les lasagnes, faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un set de jeux d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
C'est le plus grand événement de liquidation de l'année. Instruments de musique Long & McQuaid organise sa grande vente liquidation à l'échelle nationale. Cette fin de semaine, à partir de vendredi 20 février, des offres spectaculaires, des prix explosifs et plus encore, jusqu'à 12 mois de financement à 0 % d'intérêt. Visitez long-mcquaid.com pour en savoir plus. La grande vente de liquidation à l'échelle nationale, cette fin de semaine seulement chez Long & McQuaid. Long & McQuaid, là où la musique commence.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, c'est le moment parfait de partir en Taos. Un VUS compact, moderne, spacieux, confortable et idéal pour affronter l'hiver avec style. En ce moment, profitez du Volkswagen Taos 2026 à partir de seulement 110,65 $ par semaine sur 51 mois à 2,99%. Venez l'essayer dès aujourd'hui et découvrez pourquoi le Taos est l'un des choix préférés des conducteurs d'ici. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain VUS vous attend.
L'actualité est présentée par PCN Physio. Pour ceux qui se croient invincibles jusqu'à ce qu'ils essaient de se lever le lendemain matin, hey, hey. PCNphysio.com.
La capsule Milan Cortina vous est présentée...
Midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission d'En Jase, il est présentement 13h12. Est-ce qu'il reste des secondes au cadran?
Non, c'est terminé.
Je pense pas, c'est terminé. Le Canada l'emporte 3-2 sur la Finlande avec une remontée. On le rappelle, le Canada qui perdait 2-0. Sam Reinhardt a marqué en avantage numérique son premier du tournoi au milieu de la deuxième période. Avec environ 10 minutes à faire en troisième période, c'est Shea Theodore qui a marqué. Excellente présence sur la patinoire. Du trio des travaillants, on a réuni Sam Bennett, Brad Marchand et Tom Wilson ensemble. Et ça a créé le but de Theodore, son premier du tournoi. Et Nathan MacKinnon a marqué un avantage numérique avec 32 secondes. Là, on mentionne qu'il va rester 3 secondes au cadran.
Une seconde, 1,3 secondes. Donc, c'est excessivement minime. Le match n'est pas fini. Mais la victoire semble de plus en plus acquise. J'en ai parlé tantôt. Quel match, puis je tiens à dire, quel match des Canadiens. Là, en termes de tirs, 39 tirs contre 17 pour la Finlande. Par contre, tout un match défensif pour la Finlande.
Oui, vraiment.
Faut leur donner. On a fermé le jeu. On a réussi à contenir cette grande attaque canadienne-là. On sait comment qu'on a des bons joueurs offensifs. Mm-hmm. Mais après tout, et c'est officiel maintenant, le Canada s'en tire avec la victoire et s'en va en finale pour la médaille d'or.
Avec cette mise au jeu remportée par Sam Bennett, Bennett Marchand et Wilson qui se sont levés dans les grands moments et qui d'autre que Connor McDavid pour faire la passe à Nathan MacKinnon pour donner la victoire au Canada. Une pénalité qui avait été prise sur Nathan MacKinnon, on l'avait accroché, le bâton l'avait accroché au visage également. On va de ce pas rejoindre notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Steve, es-tu en feu comme nous avec le Canada qui va jouer pour l'or dimanche matin?
Définitivement, ça fait du bien au moral. Là, puis de temps en temps, là, ça en donnait une de même, une tape dans le dos, là, ça fait du bien. Les femmes l'ont manqué de pas gros hier, mais là, on s'en va au top.
Quel match des filles, hein, Steve, hier, honnêtement, là, de combattre avec les États-Unis coup pour coup comme ça. Je sais que c'est toujours décevant de repartir avec la médaille d'argent, mais nos Canadiennes peuvent être très, 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 très fiers.
Absolument, parce qu'ils ont donné tout l'effort. On le voyait sur le jeu, là, ils se sont pas laissés aller. Puis c'est un concours de circonstances que ça n'a pas fini comme espéré. Puis moi, je suis pas mal certain que l'équipe de masculine va pouvoir mettre le paquet là-dedans. Puis là, ça va être la confrontation des titans. Moi, je l'appelle le même.
Ah, vraiment. Steve, c'est drôle parce que là, on parle des Jeux olympiques. C'est un drôle de hasard. On parle de plein de compétitions. On le rappelle, Valérie Maltais qui a remporté sa troisième médaille des Jeux, une médaille de bronze tout à l'heure aux 1500 mètres. Et là, on va parler de l'ex-athlète olympique canadien, Ryan Whiting, qui avait accès à un puissant logiciel d'espionnage capable d'infecter les téléphones de ses cibles à distance. Parle-moi de ce logiciel-là. C'est un logiciel d'espionnage digne des meilleurs films américains.
Oui, tout à fait, mais il n'est pas spécifié non plus dans le plumitif, donc dans l'acte d'accusation. C'est simplement dit que c'est un outil de surveillance qui a été installé dans certains téléphones d'opposants, on va dire, entre guillemets, pour les opposants, donc ceux et celles qui travaillaient contre lui. Et c'est vu, c'est pas d'hier que ça existe, ces logiciels-là. Certains, comme un populaire qui est Pegasus du groupe NSO, puis Graphite de Paragon, ce sont des logiciels, eux autres, qui sont faits pour aller s'immiscer dans des appareils, que ce soit Android ou iOS, pour être capable de suivre, écouter, lire l'information qui est véhiculée dans ce téléphone-là. Et ça a été vu à plusieurs reprises à travers le monde contre des ressortissants, des figures politiques en opposition à des régimes. Et ça continue comme ça. Mais qu'est-ce qui me tracasse le plus, c'est que ça a été divulgué qu'il a payé 18 500$. Puis dans les deux premiers logiciels, je vous ai parlé, Paragon, c'est-à-dire Graphite et Pegasus, ça, c'est pas dans cette gamme de prix-là. D'habitude, eux autres, c'était que 2-0 de plus. Fait que okay. Je comprends pas lequel des logiciels qu'il peut avoir à ce prix-là.
Mais c'est justement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait pu corrompre certains groupes criminalisés, justement, les menacer ou les payer différemment que le 18 000 pour le logiciel?
Non, mais qu'est-ce que... ça a été déclaré qu'il a suivi la compétition. Donc, en infectant ces pièces d'équipement-là, donc des téléphones cellulaires, il est en mesure de suivre par la géolocalisation où étaient ses adversaires, où étaient les cibles, les victimes potentielles là, qu'il voulait faire. Fait que ça, c'est un... Autant pour les services de police qui utilisent ça dans des techniques d'enquête ici au Canada, ça a déjà été cité que la police de l'Ontario, la GRC, ont eu accès à ces genres d'appareils-là, de logiciels-là dans ces appareils. En 2017, en 2024, juste te donner une idée, là, il y a 57 appareils dans des enquêtes qui ont fait l'objet d'usage de ces logiciels-là, ce qui a mené aussi avec une commission un comité d'études sur justement l'utilisation de ces logiciels-là, et un rapport est sorti en novembre 2022, qui depuis, on n'a pas eu grand-chose qui a bougé, mais dans ces travaux-là, ça a été documenté qu'il y a eu justement déclaration comme quoi que ça existe, des outils comme ça, on fait des enquêtes, et ce qui était dans les recommandations, c'est évidemment que ça soit déclaré pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est. Mais dans le passé, les techniques policières qui utilisent des affaires comme ça sur la ligne du correct, pas correct, bien, ça leur donne une idée dans quoi qu'ils s'embarquent. Ça leur donne aussi la confiance qu'ils vont prendre des techniques qu'ils vont pouvoir divulguer en cours. Il faut qu'ils divulguent la preuve et comment ils ont eu la preuve. Mais prendre des logiciels comme ça et épier la population, bien, il y a un potentiel de dérape comme n'importe qui peut faire.
Oui, bien, quand c'est des policiers qui le font, j'ai envie de dire, c'est une certaine chose. Mais de voir des personnes comme Ryan Wedding le faire, ça amène la question, est-ce que n'importe qui, mal intentionné, peut donc avoir accès à des logiciels qui permettent d'espionner des téléphones? C'est un peu ça que ça nous dit, là.
Ben oui, puis comment est-ce que ça se fait, ces infections-là? Ben premièrement, ça y va par des vecteurs d'accès qui sont faciles pour rejoindre la victime. WhatsApp, iMessage, des logiciels de communication comme ça. Aussi, il y a des techniques qui sont utilisées, qu'on appelle des techniques zéro-clic, qui vont être d'envoyer à la cible, à son numéro de téléphone ou son adresse, une image qui est truquée ou une vidéo avec laquelle elle va s'auto-activer parce qu'il y a une vulnérabilité dans le système d'exploitation de l'appareil et que là, la personne, elle ne saura pas, va juste recevoir la photo ou la vidéo, va juste la regarder, puis bang, le téléphone est compromis. Fait que ça veut dire quoi? C'est que les fabricants ont l'odieux de garder leurs appareils à jour, mais les bandits, eux autres, ont quand même assez fort pour aller chercher les failles, puis les exploiter de temps en temps. Fait que quand on dit qu'il faut mettre les appareils à jour, bien, c'est une mesure avec laquelle ça va réduire ce risque-là. Et une des mesures aussi qui est sortie il y a quelques années par le NSA aux États-Unis pour prévenir ce genre de situation-là, autrement dit qu'on devienne victime de l'exploitation par un tel logiciel, bien, c'est d'éteindre son téléphone autant ce qu'on peut. Souvent, ça va être la recommandation de base une fois par semaine. Moi, je le fais souvent, en tout cas. Et c'est pour vraiment minimiser que le code reste en mémoire vive, parce qu'il ne s'installe pas dans le système d'exploitation. Il reste en mémoire vive. Et quand on éteint le téléphone, ça efface. qu'est-ce qui est dans le contenu de la mémoire. Fait que ça, c'est une bonne pratique pour ceux et celles qui disent ben, comment qu'on peut faire, on peut rien faire. Non, non, on peut faire quelque chose pour se protéger.
Donc, on peut éteindre le téléphone cellulaire. On parle avec Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité et ex-ancien officier des Forces armées canadiennes. Steve, si les criminels sont capables d'avoir ce logiciel-là très performant pour 18 000 $ est-ce que nos corps de police, là, je vais me concentrer ici au Canada, sont capables justement de retracer ces transactions-là ou de retracer ces intrusions-là faites par les criminels?
Oui et non. Parce que, tu sais, c'est comme placer un appel, t'as un point d'initialisation puis t'as un point de terminaison pour que l'appel se fasse entre deux personnes, deux points. Mais c'est pas si évident que ça avec des logiciels comme ça, puisque l'anonymisation, elle est aussi mise de l'avant. Autrement dit, pour pas que ce soit facile à retracer. À moins qu'ils servent un subpoena pour aller voir chez la compagnie, s'ils peuvent retracer chez la compagnie, ça a été déjà vu dans le passé. Mais ça, généralement, ces grands conglomérats, ça protège la clientèle, puis ça sera pas facile d'y avoir accès. Ça, c'est un. Deux, ben, y a peut-être d'autres logiciels qui existent sur le marché qui sont pas tout simplement des inks avec un pignon sur rue en quelque part. Et donc, ça se passe dans les instances criminelles, puis ça devient des logiciels maison qui sont développés. Pour que ça soit des logiciels maison développés, il faut qu'il y ait du monde qui soit bien ferré en la matière. L'argent va attirer le talent, ça c'est clair, et ils peuvent à ce moment-là se créer des outils en ce sens.
Puis, en tant que personne normale, est-ce que ça se pourrait qu'une personne mal intentionnée ou autre utilise cette sorte de logiciel-là sur mon appareil, par exemple? Et si oui, comment que je fais pour tenter de l'éviter?
Ben, comme de fait, on dit que ces logiciels-là sont utilisés vers on va appeler ça des gens d'intérêt. Tu sais, comme je disais, mettons comme l'exemple avec le journaliste Khashoggi, qu'il a parlé contre le régime saoudien, ben ils l'ont suivi jusqu'au Canada, jusqu'à Lennoxville, en Estrie, puis après ça, ils ont été capables de l'attirer dans un consulat en Turquie, puis il n'est jamais sorti de là, le bonhomme, mais ils ont été capables d'avoir aussi accès à Jeff Bezos, son cellulaire, quand même, en infectant son WhatsApp, et par une vidéo dans WhatsApp, il a contaminé le téléphone parce qu'il voulait lire s'il en savait plus, le gars, parce qu'il était propriétaire du Washington, il est toujours propriétaire du Washington Post, il voulait savoir où ce qui était rendu Khashoggi, s'il en savait plus. Fait que c'est comme ça qu'ils vont vous chercher des points d'information. Mais pour le commun des mortels, est-ce qu'un criminel pourrait s'en prendre à vous et moi? La réponse est oui, parce que si on a quelque chose qui les intéresse, c'est là qu'ils peuvent dire, ben on va aller le voir, cette personne-là, tu sais. Puis si c'est un réseau de criminels qui veulent te dépocher de quoi que ce soit, ben c'est là que ça naît un outil qui est accessible. Encore là, j'insiste, puis je ne veux pas que le monde parte en peur, c'est une exception qu'ils vont avoir accès à ça, parce que c'est pas disponible, on achète ça au bureau en gros. C'est vraiment des compagnies qui sont quand même de pointe, ils ont une réputation protégée, puis ils vont faire affaire avec quelque chose qui est très payant. Puis ça, je dis, c'est dans les centaines de milliers de dollars acheter une licence d'exploitation pour ces logiciels que je disais tantôt. Mais ça n'excuse pas que quelqu'un peut envoyer... Ou comme là, présentement, il y a une grosse faille de vulnérabilité avec un logiciel de prise de contrôle à distance pour les compagnies qui veulent aider les gens. Ben, si la faille n'est pas colmatée, le logiciel peut être exploité. Ça ne prend pas 100 000 $ pour faire ça, là. Ça prend juste la connaissance. Puis après ça, ça se fait. Fait que c'est pour ça qu'il y a bien des variables qui sont en mouvement présentement qui font en sorte qu'il y a juste une place qu'on peut aller se servir d'un outil pour commettre un méfait. Il y en a plusieurs autour, mais à la base, ça revient à chacun d'entre nous de garder nos appareils à jour, puis d'arrêter de cliquer sur tout ce qui nous est présenté, parce que c'est comme ça souvent que beaucoup de gens sont compromis.
Donc, Steve, en terminant, on éteint nos appareils, on fait les mises à jour et on fait tout simplement pas confiance aux messages qu'on ne connaît pas et on devrait ne pas être espionné par Ryan Wedding ou autre criminel de la sorte.
Ben là, eux autres sont pas mal sur le dallo parce qu'ils se sont fait ramasser et tout. Moi, j'espère en tout cas que dans leur comparution en justice, on va en apprendre davantage sur les techniques qui ont été utilisées, etc. Mais de ce fait, il va y avoir d'autres cas qu'on va voir dans le monde là, qui vont se passer. Parce que quand Edward Snowden a fait son dévoilement des outils du NSA, là, il y a quelques années, il y en avait pas mal. Il y avait un catalogue, justement, des outils gouvernementaux américains, surtout, qui existent et que, pour des fins d'espionnage ou de sécurité nationale, ces outils-là sont à ce niveau-là de gouvernance. Mais il y a de la traçabilité à travers de ça qui font en sorte qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent pour protéger nos intérêts, mais en même temps, il est arrivé dans le passé qu'il y a des boîtes de même qui ont fui dans le, mm-hmm. dans le public. Fait que c'est, vous avez raison, donc il faut vraiment voir notre protection initiale, mais il ne faut pas être dupe. Et si on a des choses particulières, j'aime ça dire croustillantes à échanger, ben faites ça en personne, faites pas ça à travers les téléphones s'il n'a pas été mis à jour, s'il n'a pas été surveillé, etc. Vous courez à votre perte en faisant ça de même. Mais tu sais, je vis dans paranoïa de même, les gars. Ben ça, c'est mon...
C'est mais c'est parfait. C'est pour ça que tu es notre spécialiste en cybersécurité. Steve Waterhouse, ancien officier des Forces armées canadiennes, merci infiniment pour le temps que tu as passé avec nous. On se dit go Canada, go pour cet après-midi. Il y aura une finale en curling. On souhaite que les gars l'emportent au niveau du hockey masculin dimanche matin. Et au plaisir de se reparler bientôt.
Certainement, bon week-end.
Salut Steve, bon week-end. On le rappelle, le Canada l'a emporté 3-2 sur la Finlande, un but à 32 secondes de la fin du match de Nathan MacKinnon en avantage numérique sur une superbe passe de Connor McDavid. Macklin Celebrini, le jeune de 19 ans, qui est également complice sur ce filet. On s'en va en finale, mon Mathias.
Hey, t'imagines-tu l'ambiance dans les écoles en Ontario quand ce but-là s'est scoré?
Oui, c'est bien trop vrai. Oh, que j'aime Doug Ford. Mais il a fait vivre ça à tous les enfants dans les écoles en Ontario. C'est extraordinaire. Ici, à Québec, en passant, là, pas mal, tous les centres de services scolaires étaient en pédago. Fait que nos enfants l'ont vécu à maison. Moi, d'après moi, les deux miens ont jumpé.
Les plafonds sont... doivent sauter.
Ah, les messages qui sont apparus sur notre groupe familial, c'est tout simplement extraordinaire.
Puis quand on parlait de ça hier, justement, puis j'en parlais, c'est bien beau l'école, mais les souvenirs qu'on crée à ces moments-là. Puis, Jeff, on va s'entendre. On va s'en souvenir qu'on était en onde quand Nathan MacKinnon a scoré ce but-là pour nous amener en finale des Jeux olympiques. C'est des grands moments qu'on vit présentement.
On fait-tu de quoi, Mathias?
Vas-y.
Faudrait faire ça, là. Faudrait... parce que, tu sais, c'est super bon, là, le Rock and Chill de 7 à 10, les samedis et dimanches matin. T'sais, j'adore ça. C'est mon émission préférée. Je prends un petit café. J'écoute La Belle Voix d'Audrey. Comme j'ai toujours dit, on dirait que ma blonde est plus belle le matin avec un café puis le Rock and Chill. Même si c'est toujours belle, Val. Mais là, dimanche matin, là, je pourrais pas écouter le Rock and Chill.
Une petite ambiance derrière le match du Canada?
Ouais, c'est vrai. Le Rock and Chill va faire gagner le Canada. On donne ça comme mission à Audrey Pinchot?
On donne ça comme mission.
On donne ça à Audrey Pinchot. Avec le Rock and Chill, Audrey Pinchot, t'es obligé de faire gagner le Canada. Sinon.
C'est beaucoup de pression sur les épaules d'Audrey qu'on donne présentement.
Là. Ouais. Sinon, moi et Mathias, on va penser à quelque chose pour toi. Faut que le Canada gagne en même temps que le Rock and Chill. Mais vous savez, la programmation de week-end, c'est pas juste le Rock and Chill. À soir, 18h. Imagine-toi, là, le Canada vient de gagner un gros match. On est en feu total ici au Québec. Puis à 18h, c'est Dan Demen qui s'installe. Il met la meilleure musique rock. Il shoot ça, les bons vieux classiques. Puis là, t'es rendu à ta sixième bière parce que t'as pas travaillé de la journée puis t'as écouté le Canada puis ça part. C'est écœurant sur nos ondes. Dan avec son garage à 18h. Samedi, Dan Demen revient de 10 à 15 avec le boulevard du rock. Colos va être là dimanche et c'est Matt Marcotte avec son rack à mat qui termine vos fins de semaine, les samedis et dimanches, à compter de 15h. Ne manquez pas notre programmation de fin de semaine, notre programmation musicale. C'est la meilleure programmation musicale de la business. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a autant la nouveauté de Shinedown qui s'en vient au centre Vidéotron que le bon vieux Classic Rock de Van Halen. Circulation, Mathias?
Yes, juste vous dire, présentement, il y a deux ralentissements principaux qui se créent. Le premier, c'est Capitale Direction Est entre Pierre Bertrand et Robert Bourassa. Deuxième, le petit classique du vendredi après-midi. Laurentienne en direction sud en arrivant sur Capitale. Si vous avez des informations, 88-971-1021 par texto.
Dans un instant, on va parler avec notre chroniqueur sportif en direct du 99.5 Montréal, Alex Laramé. Évidemment, on revient sur cette victoire dramatique du Canada en hockey féminin. Cette défaite crève-cœur du Canada, j'ai dit hockey féminin. Victoire dramatique en hockey masculin, pardonnez-moi, 3-2, but de Nathan MacKinnon. Défaite crève-cœur du Canada en hockey féminin hier en prolongation face aux États-Unis en finale. Il y a les gars qui vont se retrouver en finale au curling cet après-midi. Valérie Maltec a gagné sa troisième médaille, une médaille de bronze aux 1500 mètres en patinage de vitesse longue piste. Et il y a les filles en curling qui vont jouer pour le bronze également. Puis on regarde ce qu'il y a à surveiller ce week-end aux Jeux olympiques, en ce dernier week-end olympique. On fait tout ça dans un instant avec Alex Laramé sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission L'Enjase. L'Enjase.
Juste
assistance accompagne.
Carole, désolée pour le bruit, hein. Je rénove ma cuisine.
Toi, ça?
Ben, pas moi, moi, là. C'est l'entrepreneur vérifié qui m'a été recommandé par Réno Assistance. On réglait justement des petits détails, là. Ben, c'est plus Mathieu, mon conseiller Réno Assistance.
Donc, c'est pas vraiment toi qui gères ça?
Ben non. Moi, je relaxe.
Réno Assistance par Desjardins. Rénové, bien accompagné.
RénoAssistance.ca.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, c'est le moment parfait de partir en Taos. Un VUS compact, moderne, spacieux, confortable et idéal pour affronter l'hiver avec style. En ce moment, profitez du Volkswagen Taos 2026 à partir de seulement 110,65 $ par semaine sur 51 mois à 2,99%. Venez l'essayer dès aujourd'hui et découvrez pourquoi le Taos est l'un des choix préférés des conducteurs d'ici. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain VUS vous attend.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. Chez nous, vous allez en avoir plus pour votre argent. Puis si vous ne croyez pas, ben passez nous voir, on va vous le prouver. L'entrepôt de la Réno, 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelaréno.com.
On entame le dernier sprint entre les médecins spécialistes et le gouvernement. On se rappelle qu'ils se disputent une chaude lutte depuis plusieurs mois déjà. On voit enfin le fil d'arrivée. Les médecins spécialistes, ils sont presque. Encore quelques mètres et... Oh, coup de théâtre! La ligne d'arrivée s'éloigne alors qu'on est tout près. Déception. Alors que rien ne bouge sur la piste, les grands perdants sont une fois de plus les patients qui paient le prix de cette interminable course.
Les négociations ne devraient pas devenir une épreuve d'endurance. Un message de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Les trois accords, le 17 avril 2027 au Centre Vidéotron. Billets en vente dès maintenant sur gestev.com.
Ce soir à Télé-Québec, ça va être épique.
Go, Anaïs, il va te rattraper!
Let's go, Anaïs!
C'est l'aventure qui dépasse toutes les limites.
Ah ouais, c'est facile!
J'ai plus de bras.
Des trios courageux qui sont prêts à tout dans des défis plus grands que nature au cœur des plus belles régions du Québec.
Wow, c'est extraordinaire.
Une compétition où tout peut basculer en un instant.
Abandonne pas, jamais!
Auront-ils ce qu'il faut pour devenir de grands vainqueurs?
C'est pas fini, tant que c'est pas fini!
Épique, ce soir 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Envie d'un nouveau défi? Cométal recrute un estimateur en ventilation. Vous n'avez jamais fait d'estimation? Aucun souci. Ce sont vos connaissances en ventilation qui nous intéressent. Le reste, on vous l'apprend. Salaire concurrentiel et avantages dès l'embauche.
Envoyez votre candidature à rh@commercial.cométal.ca.
Chez Scoop Vision, on a l'œil pour le style. Vous avez une chose à apporter, votre prescription. Après, on s'occupe du reste. Des lunettes au prix du web, mais avec du service en boutique. C'est le meilleur des deux mondes. Scoop Vision, le style commence par vos yeux.
Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Le tournoi Pee-wee de Québec est de retour du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Venez encourager des équipes Pee-wee de partout sur la planète. Pee-wee, tu veux être là?
La météo présentée par Alimentation FC. Viande locale et naturelle livrée directement chez vous. Plus de 300 coupes et qualité garantie à 100%. AlimentationFC.com.
Jusqu'à 14h. On en jase à Boulevard.
Exactement 13h35. L'émission en jase, votre émission du midi, du lundi au vendredi, de midi à 14h. Pascal Sévis sera de retour la semaine prochaine en ma compagnie. Mathias, je tiens à te remercier infiniment pour les deux semaines. C'est vraiment deux semaines de radio impeccable. D'ailleurs, on va aller se cloquer une petite broue après.
Ben oui, puis en plus, c'est à Game États-Unis, c'est la vaquille.
Exact.
On va aller se faire du fun, puis on va profiter notre vendredi après-midi, puis de la fin de semaine. Qui commence.
Ah, en plein ça. 418-971-102. Là, on avait une discussion hors d'onde, puis on va embarquer tout de suite Alex Laramé. En onde, Alex Laramé, ça va bien?
Ben ouais, vous autres?
Oui, on avait une discussion hors d'onde. Alex Laramé, 29 ans, je n'ai 46, Mathias a 22. Mathias, aussi loin qu'il se souvient, c'est 2014. On parle des Jeux olympiques en hockey masculin avec les joueurs de la Ligue nationale. 2014, on se rappelle, le Canada a dominé de bout en bout. Donc, Mathias, je me rappelais pas d'avoir vécu des matchs comme ça. Moi, je suis replongé dans mes bons vieux souvenirs, puis je me rappelle d'avoir sacré après Mark Crawford qui n'avait pas envoyé Wayne Gretzky en fusillade en 1998 contre les Tchèques. On a perdu 2-1 en fusillade et on a échappé la semi-finale. 2002, qui était extraordinaire, où on a clenché les Américains 6-2 en finale avec Joe Sakic qui avait joué un match extraordinaire. Mais le Canada avait commencé le tournoi avec 0 victoire, 1 défaite et 1 match nul. C'était la catastrophe. Et 2010, c'est le Golden Goal. C'est incroyable. Vous, chers auditeurs, 418-971-1021, quels Jeux olympiques en hockey masculin vous a fait triper le plus? Et vous pouvez marquer cette année, là, 2026. Là. Je vous dirais qu'avec ces matchs-là, là, pas mal hésitant de 2026 puis 2010.
Pour vrai, là, moi, c'est la première fois. Puis je le disais, parce que 2014, 3-0 contre la Suède, on a dominé ce tournoi-là. Moi, c'est la première fois que je ressens des émotions de même durant des matchs de hockey. Puis je trouve ça exceptionnel. Je peux pas croire qu'on s'est privé de ça, qu'on a été privé de ça durant 12 ans de temps. C'est fourré de se dire ça parce que, wow, c'est tellement du beau hockey, c'est tellement des belles émotions puis des moments qu'on va se souvenir toute notre vie, là.
Ah non, totalement. Puis moi, je pense que c'est ça qui rend cette édition-là encore plus spéciale. C'est justement le fait que ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu du hockey avec les meilleurs contre les meilleurs. Encore la... T'sais, on a vu encore de finale contre la Tchéquie, match exceptionnel, demi-finale. Fait que ça promet encore plus pour le match de dimanche. Là. Non, honnêtement, cette équipe canadienne nous fait vivre toutes les émotions, mais au final, ils réussissent à se lever dans les grands moments. Nathan MacKinnon avec le but gagnant aujourd'hui, non, c'était exceptionnel.
Ah, exactement. Et là, à voir si Sidney Crosby pourra participer à la finale. Chose certaine, John Cooper a coaché un très gros match parce que quand il a mis Bennett Wilson et Marchand ensemble, ça crée cette énergie qui manquait au Canada. Grosse présence en début de deuxième période des trois joueurs. Et c'est ces trois attaquants-là qui sont sur la patinoire pour le deuxième but du Canada.
Ah ouais, non, il ne faut pas sous-estimer. Là, on parle de tous les joueurs avec le Canada. Oui, McDavid, MacKinnon, Celebrini, McCarr, toute la gang. Mais le coach, John Cooper, c'est l'homme de la situation pour mener cette équipe-là. Ça prend quand même quelqu'un qui a une prestance là, pour gérer des égos comme ça. Et c'est un coach qui a gagné dans la Ligue nationale. Je pense que plusieurs le considèrent comme le meilleur coach en ce moment dans le hockey. Puis il le prouve encore dans ce tournoi. Les ajustements qu'il fait de pouvoir justement réunir les trois pestes ensemble pour aller chercher de l'énergie, réunir MacKinnon avec McDavid et Celebrini. Il est capable de peser sur les bons pitons pour que cette équipe-là fonctionne. Il n'a jamais lâché Suzuki non plus. Il a lancé des fleurs après le match. Non, vraiment, John Cooper là, s'élève à un autre niveau de coach, selon moi, dans ce tournoi-là, comme les joueurs de Team Canada.
Puis j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi, Alex. Tantôt, sous le coup d'émotion, j'étais comme un peu fâché. La première période...
On se faisait out-coacher, ben selon non, mais, Mathias!
Je remets en contexte ces propos-là que je soutiens plus maintenant, là, je tiens à dire. C'était la première période, on n'était rien capable de faire offensivement. Le système finlandais nous fermait bien raide. Puis ça avait fait la même chose contre la Tchéquie en première période lors du dernier match. Par contre, puis là, sous le coup d'émotion, j'étais comme, voyons, on se fait out-coacher, on n'est pas capable de passer. Mais maintenant que la game est finie puis que je prends le temps d'analyser, ça fait deux games de suite que justement, en première période, on se fait complètement fermer le jeu. Puis qu'après ça, entre la première puis la deuxième du côté de l'équipe Canada, on a des ajustements puis on arrive en deuxième. Puis c'est une partie complètement différente qui se joue. Puis ça, c'est dû notamment, probablement, au leadership dans la chambre, mm-hmm. mais surtout à John Cooper qui fait les ajustements nécessaires.
Clairement, je suis très, très, très d'accord avec toi. Hey, dans l'ombre de ce match, mon cher Alex Laramé, il y a une athlète originaire du Québec qui vient de prendre le dessus pour être la reine des Jeux olympiques à 35 ans, Valérie Maltais. Quelle histoire exceptionnelle! Elle remporte sa troisième médaille aujourd'hui.
Ben oui, c'est ses derniers Jeux, elle l'a déjà annoncé, là, à 35 ans, c'est la fin normale. Et ouais, la représentante du Saguenay qui va chercher sa troisième médaille au 1500 mètres plus tôt ce matin. Tu l'as dit, là, c'est plate pour elle parce que ça arrive en même temps que justement la partie de demi-finale du Canada. Donc, tous les yeux, évidemment, étaient tournés vers le hockey. Mais je regardais ça quand même du coin de l'œil. J'ai vu justement son tour de piste et son temps, oui, a tenu. Là. Elle passait un peu plus dans les premières, mais ouais. Personne n'a réussi. Ben, en fait, il y en a deux qui ont réussi, là, qui ont gagné la médaille d'or d'argent, mais elle a tenu son résultat pour la médaille de bronze. Donc oui, c'est une bonne candidate pour être porte-drapeau à la fin, mais là, il y a Courtney Sarrow. Hein. Mm-hmm. Courtney Sarrow a 4 médailles. Elle peut en ajouter une 5e cet après-midi aux 1500 mètres en courte piste. Donc, du côté de la porte-drapeau féminine, il y a Megan Oldman aussi qui a gagné quand même une médaille d'or, gagnée dans ses deux compétitions. Donc, moi, je me demande presque, tu sais, dans les performances masculines, à qui on va donner le drapeau? Moi, j'aurais presque envie de dire, ça mériterait d'avoir deux femmes qui portent le drapeau à la fin.
Tellement! Je suis d'accord avec toi. Ben, sinon, c'est Kingsbury parce qu'il y a deux médailles.
Oui, mais il l'a porté au début de la cérémonie.
Exactement.
Habituellement, on donne pas le drapeau au même.
C'est ça. Non, non, donc, je suis d'accord avec toi. Donnons ça à deux femmes. C'est les femmes qui dominent à l'heure actuelle. Donc, allons-y pour ça. Les femmes vont justement batailler pour le bronze en curling et les gars vont jouer pour l'or.
Ouais, non, c'est ce matin, justement, les femmes du côté du curling affrontaient la Suède. Et ça s'est joué environ en milieu de rencontre. Là, à un moment donné, les Suédoises ont marqué 2 points. Ils ont pris l'avance. Puis vraiment, le Canada n'a jamais pu se remettre de ça. Mais quand même, on va se battre pour la médaille de bronze. Je pense que si on remporte une médaille du côté féminin, on va tout de même être contente. Et les gars, on sait que ça a été un tournoi chaotique. Là, les accusations de tricherie, on s'est pogné avec quelques pays. Mais finalement, quand même un beau tournoi pour eux qui vont justement pouvoir se battre pour la médaille d'or. Ça se joue samedi 13h. Donc ça aussi, ça va être à suivre parce qu'on n'a pas beaucoup des médailles d'or. Donc toutes celles qu'on peut aller chercher, on va les prendre.
Oui, exactement. Il y en a une qui nous a échappé, mais on ne s'attendait pas à un match aussi serré. C'était en hockey féminin hier. Défaite de 2-1 en prolongation. Ouais. Mais je pense que les Canadiennes peuvent sortir la tête haute parce qu'ils ont sûrement joué leur meilleur match du tournoi.
Ah, de loin, le meilleur match. Moi, je donnais pas cher de leur peau. Là. Après le match de 5-0, moi, je regardais ça. Les Américaines étaient plus rapides défensivement. Ils jouaient serré. Offensivement, on avait quand même des grosses attaquantes en échec avant. Je me disais, Marie-Philippe Poulin ne pourra pas faire la différence dans ce match-là. Mais on a joué une super belle partie. Mais finalement, ça s'est joué en fin de rencontre. On accorde un but à Hillary Knight pour créer l'égalité. Puis finalement, c'est ça les... C'est ça le mauvais côté, si on peut dire, du 3 contre 3. C'est une petite erreur peut changer tout au final. Puis c'est un mauvais changement du Canada, finalement. Keller, des Américaines, à 1 contre 1, fait quand même une superbe pièce de jeu. Là, on va y donner. Là, c'est du côté américain. Moi, si j'étais américain, j'aurais capoté. Là, je veux dire, c'est une super performance pour elle. Là, mais malheureusement, c'est très crève-cœur. Surtout pour Marie-Philippe Poulin. Elle n'a pas voulu l'annoncer, mais c'est très probablement ses derniers Jeux olympiques. Elle a déjà gagné des médailles d'or, mais quand même, de finir avec un bronze, avec une médaille d'argent, je veux dire, ça laisse un goût amer, là, au final.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Casey Sharp qui a perdu connaissance en 2001 hier, mais qui va participer à la finale quand même? Est-ce qu'elle est correcte?
Ben, j'ai pas vu de nouvelles sur son état de santé, mais on a tous vu les images. Là, elle a chuté lourdement, visiblement perdu conscience. Je suis pas médecin, là, mais j'ai envie de dire que c'est une commotion cérébrale, là, c'est assez évident. Elle qui avait le troisième temps pour les qualifications, donc représentait un bel espoir de médaille en plus. Donc, c'était crève-cœur là, d'avoir tombé, là, mais à voir, ça pourra participer à la finale. Là, mais on se le souhaite, mais évidemment, c'est sa santé avant tout.
On termine avec l'affrontement 15h10, Slovaquie-États-Unis. Est-ce que les Slovaques et Ural Slafovski peuvent surprendre les États-Unis? Moi, j'y vais avec une victoire des États-Unis 4-2 parce que de toute façon, je veux qu'on botte le derrière des Américains dimanche matin.
Oui, Jeff... Je pense, je sais jamais ça, mais moi aussi, je souhaite une victoire des États-Unis pour les battre, mais genre solidement les battre. Par contre, je pense que ça va être un match excessivement serré, un match fermé, 3-2 États-Unis aujourd'hui.
Ouais, moi de mon côté, c'est une belle histoire la Slovaquie déjà de se rendre en demi-finale. Ils peuvent être très contents de leur performance, notamment Juraj. Mais les Américains sont supérieurs à tous les niveaux. Là. Selon moi, ça va être une victoire de 3-1 pour les Américains cet après-midi.
Alors Alex Laramé, on suit ça ce week-end et je te le dis tout de suite. Lundi, c'est à 12h35 que tu es avec nous puis on va fêter la médaille d'or.
Ah, on se le souhaite avec plaisir.
Cool! Merci Alex pour ces excellentes chroniques Jeux olympiques avec nous à chaque jour. C'est toujours apprécié de te parler.
Ah, plaisir partagé, les amis.
Cool! Salut Alex! Alex Laramie, journaliste et chroniqueur sportif à notre station Sœur à Montréal, le 99.5. Après cette courte pause à Boulevard 102, Mathias, on va revenir avec Donald Trump.
Oui, parce que là, on a eu la réponse du président Donald Trump. Là, je vous rappelle que les tarifs réciproques, donc les tarifs qui visaient des pays en particulier, ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis. Par contre, Trump aurait répliqué aujourd'hui en disant « Ben, c'est pas grave, parce que j'impose des tarifs de 10% sur tous les pays qui vont remplacer ces tarifs réciproques qui ont été invalidés. Puis là, j'utilise une autre option pour le faire. J'utilise la section 122 du Trade Act de 1974. On en parle un peu plus en détail dans quelques instants. »
À On en jase sur Boulevard 101.
On en jase.
Ok, oui, le Midi On en jase, c'est votre émission du midi. De midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1, on vous informe, on analyse l'actualité pour vous, la politique, on vous jase de sport. Je rappelle cette victoire du Canada 3-2 sur la Finlande. Ce sera la finale dimanche matin, 8h10. Ne manquez pas ça. Radio-Canada, ce sera contre les États-Unis ou la Slovaquie, la demi-finale qui sera à 15h10. Également, sur Boulevard, blvd.fm, vous avez accès à notre web radio et les meilleurs moments. Meilleurs moments qui vont se retrouver après l'émission. Allez réécouter, si vous ne l'avez pas entendu, notre entrevue avec Suzy Langlois, une mère de famille de Trois-Rivières, endeuillée de son fils Gabriel Robillard, 25 ans, qui est décédé en raison de manquement à l'urgence psychiatrique de l'hôpital Sorel. Donc, allez écouter ça, c'est à crever le cœur et faites justement jouer cette entrevue-là un peu partout pour que ça change du côté de notre système de santé.
L'émotion dans la voix de la mère, l'émotion, la colère, c'était palpable. On l'entendait à travers le téléphone.
Exactement. C'est vraiment une entrevue très touchante. On devrait reparler dans quelques semaines avec Mme Langlois pour voir comment son dossier a avancé parce que, bon... Ah, notre beau système public d'hôpital, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, oh, on a oublié de remettre les effets personnels de son fils pendant 6 mois. Est-ce qu'on s'est excusé? Non. Est-ce qu'on a offert nos sympathies? Non. Un service complètement inhumain que cette femme-là a reçu. Ça me fait penser beaucoup au cas là, de Jacques Teasdale, qu'Olivier Teasdale mène maintenant. Là. D'ailleurs, le rapport du coroner devrait suivre là, quelque part d'ici la fin du mois de février dans ce dossier-là. Abonnez-vous aussi à notre page YouTube parce que vous retrouvez des bons moments, notamment Farnell Morisset et Lambert Drainville. Discussion, débat sur la Constitution du Québec. C'était très intéressant à entendre. Allez écouter le tout et le retour de Gravel qui va suivre évidemment à 14h, de 14h à 18h, notamment 17h02, le segment Québec-Montréal avec Richard Martineau. Farnell, informe-nous un peu plus de ce que Donald Trump a fait à la suite du jugement de la Cour suprême qui annule ses tarifs réciproque. Il est allé rechercher un autre vieil article.
Oui, juste vous rappeler justement le jugement de la Cour suprême qui a dit que les tarifs réciproques, donc ciblés sur des pays en particulier, Donald Trump, il n'était pas éligible. Donc, ils ont été annulés. Par contre, tout ce qui est sur aluminium, acier, des produits en particulier, ça peut toujours exister. Donald Trump a sorti, par contre, à propos de ça, parce que là, lui enlève probablement son plus gros levier de sa politique économique en ces fameux tarifs réciproques. Il a tout d'abord commenté en disant avoir honte de certains membres de la Cour. Il a dit qu'il y avait plusieurs moyens très puissants d'imposer des tarifs. Et ensuite, il a fini par finalement dire quel moyen très puissant il allait utiliser pour garder en place ces tarifs. Parce que lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait mettre en place des tarifs sur tous les pays à travers le monde de 10% pour remplacer ces fameux tarifs réciproques qui ont été invalidés. Mais là, vous vous dites, on vient d'invalider des tarifs, puis là, il en met d'autres de 10%, il a le droit de faire ça. Ben techniquement, oui, parce qu'il n'y a pas recours à la même règle, à la même loi. Puis cette fois-ci, il fait recours à une nouvelle loi. C'est le Trade Act de 1974. C'est la section 122 qu'il utilise. Cette section-là, qu'est-ce que ça dit? C'est que le président américain a le droit de mettre en place des tarifs jusqu'à 15% sur les différents pays à travers le monde. Ça, il a le droit pour 150 jours seulement si jamais les États-Unis doivent payer des déficits en urgence ou encore qu'il y a une grande chute du dollar américain. Ça, c'est ce que la loi dit. Y a-tu vraiment des déficits qui doivent être payés en urgence puis une chute du dollar américain? Pas vraiment, là,
pas.
Mais on va s'entendre, Donald Trump utilise tout ce qu'il peut utiliser pour pouvoir garder ses fameux tarifs en place présentement.
Donc, ça va être à suivre au début de la semaine prochaine. Concernant ce dossier, justement, on a fait une entrevue avec la présidente et directrice générale de Manufacturier Exportation du Québec, Julie White. Ça va se retrouver sur le blvd.fm. C'est clair que dans le retour de Gravel, ça sera un sujet de discussion que l'annulation de ces tarifs par la Cour suprême. On rappelle, Mathias, que la Cour suprême, les juges qui étaient là en majorité avaient été nommés par Donald Trump. Donc, c'est une énorme défaite pour le président.
Oui, puis c'est pas pour rien que le président a lancé une flèche là, à ces juges-là directement au début de son point de presse en disant avoir honte de deux autres. Lui, selon moi, pensait avoir le contrôle sur cette fameuse Cour suprême-là. Finalement, c'est six juges sur trois qui ont, sur six contre trois juges seulement qui ont voté pour invalider ces fameux tarifs.
Donald, le roi 1 qui s'effondre tranquillement, mais sûrement. Retour de Gravel qui suit de 14h à 18h. Manquez pas notre programmation musicale ce week-end et nous, on est de retour à midi lundi. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end, guys.
Bonne fin de semaine. Gravel.